De voir la salle comble ce soir. Désolé pour ceux qui nous regardent en direct, parce qu'on diffuse aussi ce soir en direct, pour ceux qui n'ont pas pu venir en physique, mais voilà, c'est très très agréable d'avoir une salle pleine ce soir. Alors juste avant de commencer, on va rappeler deux, trois petites règles. On va demander à tout le monde de porter le masque. Je me permets le temps d'introduire, je le remettrai après, de couper vos téléphones portables pour essayer de ne pas déranger pendant l'intervention. Quand tout ça sera fait, on pourra démarrer sereinement. Pour démarrer, je vais quand même me présenter. Donc, Romain Deléris, président des GIA de l'Aveyron. Ravi ce soir d'accueillir Monsieur Jancovici. Pointure, c'est comme ça qu'on l'a présenté entre nous en préparant cette conférence sur un sujet qui est totalement d'actualité. La COP26 vient juste de se clôturer. Donc, je pense qu'on aura l'occasion de revenir sur ces sujets-là. En introduction, je pense qu'il y a plusieurs personnes à remercier. Je vais remercier le groupe de Camboulazé, son président Bernard Cazal ici présent, le conseil départemental qui nous accueille dans ses locaux, c'est toujours un soutien important. Remercier Pauline qui a organisé de manière logistique ces échanges. Et puis remercier Aurélien qui va animer cette soirée, qui se met un petit peu en danger. Et on va l'excuser si ça se passe pas bien. Non, ça va bien se passer, mais on va pas lui mettre on va pas lui mettre la pression. Voilà, bonne soirée à tous. Soyons attentifs. Soyons attentifs et puis gardons nos questions et posons-les parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses intéressantes à apprendre de la soirée. Bonne conférence à tout le monde, à toi Aurélien.
Bonsoir à tous. Donc, merci à tous d'être présents. On accueille aujourd'hui à Rodez Monsieur Jancovici. Donc, je vais le présenter très rapidement. C'est un des experts français de la transition éco-énergétique, fondateur notamment de Carbone 4. On entend beaucoup parler de démarches de bilan carbone. Voilà, ça en fait partie. Il est aussi fondateur et président de The Shift Project. C'est avec pour objectif de réduire la dépendance de notre économie aux énergies fossiles. Vous avez pu voir le titre, on a baptisé cette conférence Plus de degrés, les vaches sous les cocotiers. Bon, le titre, il est un petit peu provoque, comme on a l'habitude de le faire. L'idée, c'est qu'aux jeunes agriculteurs, on n'a pas peur des débats, on aime bien bousculer les idées reçues. On entend beaucoup parler de l'agriculture, du réchauffement climatique et de la transition énergétique. On a notamment le chiffre comme quoi l'agriculture serait à l'origine de 15% des gaz à effet de serre. Bon, très bien, mais à partir de ce constat-là, est-ce qu'on va plus loin et est-ce qu'on ne peut pas se demander si l'agriculture aujourd'hui, et notamment notre agriculture aveyronnaise, notre agriculture d'élevage, notre agriculture de montagne, est-ce qu'elle ne peut pas être aussi une opportunité demain dans la transition écologique et énergétique et lutter aussi contre le réchauffement climatique? C'est un peu le déroulé de cette conférence. Je laisse maintenant la parole à Monsieur Jancovici.
Je suis absolument désolé, moi je ne vais pas avoir un accent aussi chantant que celui des deux personnes qui m'ont précédé. Vous allez devoir supporter mon horrible accent parisien. J'espère que vous ne vous en irez pas avant la fin à cause de ça. Alors je vous ai pris au pied de la lettre. Donc la question c'est est-ce que l'avenir va ressembler à ça? Voilà, alors je ne vous ai pas pris au pied de la lettre, mais quand même, je vais un peu vous réveiller. Il ne faudrait quand même pas trop qu'il ressemble à ça. Et je pense que les éleveurs n'ont pas non plus envie qu'il ressemble qu'à ça. Mais c'est aussi un sujet dont on va discuter ce soir, nécessairement. On en parlera à la fin. Alors, le sujet que je vais évoquer devant vous, il a trois déterminants, on va dire. Un déterminant changement climatique, un déterminant énergie, un déterminant agriculture. Alors, on peut prendre un triangle par n'importe quel de ces trois côtés au début. On va commencer par parler de climat. Le climat. Et, enfin, exactement, le fait que les hommes et les femmes, ne les oublions pas, puissent perturber le climat, même dans ce domaine-là, la parité est bien respectée, c'est quelque chose qui, en fait, est connu depuis assez longtemps. Dans 2 ans, on va célébrer le bicentenaire de la découverte de l'effet de serre par Joseph Fourier, physicien que certains d'entre vous ont peut-être vaguement entendu le nom. qui avait écrit en 1824 un papier scientifique dans lequel il expliquait qu'il y avait un effet de serre dans l'atmosphère et que ça conduisait l'atmosphère, enfin la planète à être un peu plus chaude que si cet effet n'existait pas. Et alors là, je vous montre un journal que vous voyez, il est paru en 1912, un journal néo-zélandais, une petite brève scientifique là dans un coin, dans lequel il est expliqué que avec tout le charbon qu'on brûle, eh bien, on met beaucoup, beaucoup de CO2 dans l'atmosphère et que ça va conduire le climat à se modifier. Oui, 1912. Donc, l'effet de serre, la caractéristique des gaz à effet de serre, que je vais vous expliquer dans 30 secondes, à réchauffer le climat, c'est de la très vieille science. Ce qui est plus moderne, c'est d'avoir compris les implications sociétales que cela veut dire et les conséquences que cela pourrait avoir. Pendant longtemps, on s'est dit que ce n'était pas vraiment un sujet. On va essayer de faire un tout petit peu de physique amusante. Je suis désolé pour ceux pour qui le mot physique évoque des souvenirs vraiment très très désagréables des bancs d'école. Alors ici, vous avez une vue d'artiste, pas de moi du reste, parce que je dessine comme un cochon, dans lequel on vous représente, vous l'aurez reconnu, la surface de la Terre, avec la Terre ferme à droite et l'océan à gauche, et au-dessus, l'atmosphère avec des nuages, et encore au-dessus, le vide avec très loin notre Soleil. Alors en fait, c'est une représentation schématique du système climatique qui se passe dans l'atmosphère, dans l'océan. Ce système climatique, c'est une machine, en fait, hein, machine climatique. Une machine, elle a besoin d'énergie pour fonctionner. Et l'énergie qui permet au système climatique de fonctionner, c'est l'énergie soleil. Le soleil, c'est une très très grosse bombe thermonucléaire permanente. Donc heureusement que l'énergie nucléaire, ça existe, sinon on serait tous morts dans cette salle. Celle-là, elle se produit loin, donc on n'a pas beaucoup à la redouter. Et ça nous envoie donc de l'énergie en permanence sous forme de rayonnement qui s'appelle de la lumière. Alors cette lumière, elle passe très facilement à travers l'atmosphère, sauf pour la partie qui est réfléchie par les nuages ou par les surfaces très réfléchissantes de l'atmosphère, hein, les glaces, les déserts, etc. Et à peu près les deux tiers sont absorbés par le sol. Alors le sol, quand il va absorber cette énergie solaire, il va avoir tendance à chauffer et il va se débarrasser de l'énergie qu'il a récupérée de plusieurs manières. La première manière qu'il a de se débarrasser de son énergie, c'est de chauffer l'air qui est juste au-dessus. C'est un des déterminants de la convection, vous savez, le fait que l'air chauffe et puis ensuite il monte, il grimpe. C'est cette convection qui crée en été les cumulonimbus que vous émettez. Et voilà, donc ça c'est une des premières manières que le sol a de se débarrasser de son énergie. Une deuxième manière que le sol a de se débarrasser de son énergie, c'est d'évaporer de l'eau, exactement comme notre peau se refroidit avec la sueur qui s'évapore, hein. Donc on évapore de l'eau et la Terre est une grosse machine à évaporer puisqu'elle est couverte aux deux tiers d'océan. Et une fois que l'eau se retrouve dans l'atmosphère et condense, ça restitue l'énergie qui a été utilisée pour évaporer l'eau. Et ça, c'est un flux de restitution du sol à l'atmosphère qui est trois fois plus important que l'évacuation de la chaleur par le contact. Et puis le sol a une troisième manière de se débarrasser de son énergie qui est de rayonner de l'infrarouge. Vous savez, l'infrarouge, c'est un rayonnement de même nature que la lumière, mais avec des longueurs d'onde plus grandes. Et typiquement, votre corps en émet, c'est grâce à ça qu'on peut vous voir la nuit avec une caméra à infrarouge dans un endroit où il n'y aurait absolument pas de lumière. Eh bien, le sol, c'est pareil, le sol, il émet de l'infrarouge, il est une température qui n'est pas très très éloignée de celle de notre corps. Et ce rayonnement infrarouge, il va lui arriver un destin totalement différent dans l'atmosphère de ce qui est arrivé à la lumière visible, il ne passe pas. Il ne passe pas parce que dans l'atmosphère, il y a des gaz, qu'on appelle des gaz à effet de serre, qui sont en fait des gaz opaques aux infrarouges émis par la surface. C'est ça la définition d'un gaz à effet de serre, c'est très simple hein, cette définition en physique. C'est un gaz qui est opaque au rayonnement qui est émis par la Terre. Donc transparent à la lumière, opaque au rayonnement. Alors vous voyez que dans cette affaire, l'atmosphère, elle récupère par trois fois de l'énergie par le bas. Elle en récupère une première fois avec le contact, une deuxième fois avec l'évaporation, je ne sais pas si j'arrive à récupérer ma souris, voilà, et une troisième fois par des infrarouges qui sont interceptés. Donc l'atmosphère va récupérer elle aussi de l'énergie. Et comme le sol, elle va chercher à se débarrasser de cette énergie, parce que les systèmes physiques aiment bien être à l'équilibre et se débarrasser de l'énergie qu'ils reçoivent. Alors l'atmosphère n'a qu'une seule manière de se débarrasser de son énergie, c'est elle aussi de rayonner de l'infrarouge. Elle va en rayonner dans tous les sens, et notamment, il y en a une partie qui retourne au sol. Et donc le sol, à cause de l'effet de serre, est chauffé une deuxième fois par rapport à une situation où il n'y aurait pas de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Si l'atmosphère terrestre était totalement transparente aux infrarouges émis par la Terre, la température moyenne sur Terre serait environ 30 degrés inférieure à ce qu'elle est aujourd'hui. Donc il n'y aurait probablement pas d'eau liquide sur Terre, ou très très peu, et donc vous ne seriez pas dans cette salle, et moi non plus, parce que la vie telle que nous la connaissons n'existerait pas. Hein ? Sans eau liquide, il n'y a pas de vie. Hein ? Donc l'effet de serre naturel est parfaitement bénéfique à la planète, Et ce qui est en cause en ce moment, c'est son augmentation rapide. Hein, c'est la modification qui va poser problème. Alors cette modification, d'où elle vient ? Alors pardon, quand on touche pas au système, eh bien il se met à l'équilibre. C'est-à-dire que vu de l'espace, il y a autant qui rentre que d'énergie qui rentre que d'énergie qui sort. La modification qu'on va faire, c'est de mettre dans l'atmosphère des gaz à effet de serre avec toutes nos activités modernes. On verra un peu plus ça en détail. Et du coup, on rend l'atmosphère encore plus opaque aux infrarouges qu'avant. Donc, le rayonnement a encore plus de mal à quitter l'atmosphère pour aller vers l'espace. Et il y en a une encore plus grande partie qui est interceptée par l'atmosphère. Du coup, ça réchauffe encore plus le sol. Et le sol, il va se réchauffer jusqu'à temps que... Pardon, quand le sol se réchauffe, du coup, le rayonnement qu'il émet va augmenter. Et le sol va se réchauffer jusqu'à temps que le surplus de rayonnement qu'il émet équilibre à nouveau ce qu'il a perdu à cause de l'augmentation de l'opacité de l'atmosphère. Donc en gros, vous baissez un petit peu, vous diminuez un peu la taille de la bonde d'une baignoire, bah, faut augmenter la pression pour qu'il sorte toujours la même chose. Et là, c'est à peu près ce qui se passe. Vous augmentez l'opacité aux infrarouges terrestres, il faut qu'ils s'en crachent un peu plus en bas pour qu'ils passent toujours la même chose à travers, quelque part. Mais ça veut dire que la température d'équilibre augmente, et avec ça, tout un tas d'effets qu'on verra tout à l'heure. Alors les gaz qui viennent perturber l'équilibre dans l'atmosphère, les voici. Vous avez du CO2, dioxyde de carbone, vous avez du méthane, on va voir d'où ça sort, et après vous avez d'autres gaz, notamment un gaz qui joue aussi un rôle, enfin objectivement qui est lié aux activités agricoles, qui s'appelle le protoxyde d'azote, je vous en parlerai un peu plus tard. Alors ces gaz à effet de serre, d'où est-ce qu'ils sortent ? Une partie du CO2 vient de l'exploitation du charbon, une partie du CO2 vient de l'exploitation du pétrole, le fait de brûler du pétrole crée du CO2, une partie vient de l'utilisation du gaz. Le gaz est naturel, mais enfin le pétrole est naturel aussi, le charbon est naturel aussi, hein, tout ça c'est naturel. Donc le gaz, c'est une énergie fossile et ça fait du CO2 quand on s'en sert. Vous avez la déforestation. Alors la déforestation, c'est un processus amont de l'activité agricole et c'est essentiellement du défrichement de surfaces qui sont couvertes de forêts pour en faire des surfaces cultivées. Donc en fait, on vient dans des endroits où il y a des forêts, on coupe les arbres, on les brûle, l'essentiel du temps, et à la place, on installe des cultures ou des pâturages. Ensuite, vous avez le méthane, qui a plusieurs origines, dont des origines agricoles, j'en reparlerai tout à l'heure, et enfin, vous avez le reste. Alors, ce que vous remarquez sur cette courbe, c'est que ça fait un siècle et demi que les émissions de gaz à effet de serre augmentent, et que pour le moment, absolument rien n'a entravé leur progression. Alors, on reviendra dans pas longtemps sur les fameux SCOP, mais pour le moment, je vous propose autre chose qui n'a pas entravé la progression des émissions de gaz à effet de serre. C'est ce qu'on a coutume d'appeler le progrès technique. Alors, je vous ai mis un exemple, par exemple, le début de l'électricité. C'est-à-dire, on entend souvent dire, quand on électrifie les choses, eh ben, du coup, ça permet d'être un peu plus propre. Ben, vous voyez, le début de l'électricité, c'est il y a plus d'un siècle. On a consommé de plus en plus d'électricité depuis un siècle et ça n'a pas empêché les émissions de continuer à augmenter. On a mis les gens dans les villes. Il paraît que quand on est dans les villes, on consomme moins d'énergie pour ses déplacements. Bah, peut-être, mais on a mis de plus en plus de gens dans les villes et ça n'empêche pas les émissions de continuer à augmenter. On a mis les gens dans les trains, ça n'empêche pas les émissions de continuer à augmenter. On a créé Internet, voilà, et on a fait des trucs et des machins. Donc d'une manière générale, ce qu'on a coutume d'appeler le progrès technique, pour le moment, quand vous regardez l'évolution des émissions de gaz à effet de serre, à aucun moment vous pouvez vous dire « Ah ben tiens, grâce au progrès technique, ça s'est arrêté d'augmenter. » Hein ? Jamais, pour le moment. Le drame dans notre affaire, c'est que ces gaz à effet de serre, et en particulier le CO2, une fois qu'on les a mis dans l'atmosphère, ils n'ont strictement aucune envie de s'en aller. Et c'est particulièrement vrai pour le CO2, dioxyde de carbone, qui, comme tous les oxydes, est une molécule extrêmement stable. Alors, il y a un oxyde que vous connaissez très très bien, vous l'utilisez tous les jours, parce que sinon vous sentez mauvais sous les bras, qui s'appelle l'oxyde de dihydrogène, et dans un nom plus courant, l'eau. OOH2O, on va rappeler. Donc l'eau, c'est un oxyde, c'est de l'oxyde d'hydrogène. Hein. Eh bien, ça fait des milliards d'années que l'eau est sous forme d'eau sur Terre. Donc les oxydes, c'est très très stable. Et une fois que le CO2 est dans l'atmosphère, il n'a aucun processus spontané d'épuration. Donc tant qu'il reste au milieu de l'atmosphère, il est éternel. Hein, il ne s'en va pas. Pour que le CO2 accepte de s'en aller de l'atmosphère, il faut qu'il revienne au contact de la surface. Hein, tant qu'il est dans l'air, ça, il reste là. Et au contact de la surface, il peut lui arriver l'une des deux choses suivantes. Il peut être capturé par un brin d'herbe aveyronnais. Voilà, donc ça c'est la photosynthèse. Et à ce moment, il sort de l'atmosphère. Ou bien, il peut se dissoudre dans l'océan. L'océan, il y en a assez peu en Aveyron. Il peut se dissoudre dans l'océan. Et ça, c'est un phénomène de vase communicant. C'est-à-dire que, comme la dissolution, hein, s'il y a plus de place dans l'océan pour mettre du CO2 et que le CO2 est à l'étroit dans l'atmosphère, ben, il y en a une partie qui passe de l'atmosphère dans l'océan. Mais c'est un processus de vase communicant et qui est évidemment réversible si à un moment il y a moins de CO2 dans l'atmosphère, pour Dieu sait quelle raison, et plus dans l'océan, ben, il peut ressortir. C'est des processus qui sont très très lents, ces processus de soustraction du CO2 à l'atmosphère, parce qu'encore une fois, il faut revenir au contact de la surface pour que ça se produise. Et alors du coup, le drame de notre affaire est le suivant. Ici, vous avez un graphique qui vous représente la fraction du surplus de CO2 que nous avons mis dans l'atmosphère, qui est toujours dans l'atmosphère après arrêt des émissions. D'accord ? Donc avec nos émissions, on a rajouté du CO2 dans l'atmosphère, un jour on arrête, quelle qu'en soit la raison, et à ce moment-là, on regarde qu'est-ce qui se passe pour ce surplus de CO2. Eh bien, ce graphique vous donne la réponse. Un siècle après arrêt des émissions, vous avez 40% du surplus de CO2 qui est toujours dans l'atmosphère. Un millier d'années après arrêt des émissions, vous avez 20 à 30% du surplus de CO2 qui est toujours dans l'atmosphère. Et 10 000 ans après arrêt des émissions, vous avez 10 à 15% du surplus de CO2 qui sera toujours dans l'atmosphère. Donc là, je suis en train de vous dire que l'état de l'atmosphère tel qu'il était avant le début de l'utilisation des combustibles fossiles est perdu à jamais pour le temps qu'il reste à vivre à l'humanité. Hein ? Plus jamais. Et à cause de ça, la dérive climatique qui en découle est pour partie irréversible aux mêmes échelles de temps. Donc je suis en train de vous dire que le climat de l'an 2000, vous ne le reverrez jamais. Et même le climat de l'an 2020, il va disparaître et on ne le reverra jamais. La dérive climatique à partir de maintenant, elle est pour toujours. Le climat va être instable, plus ou moins, pour ce qu'il reste à l'humanité à vivre, si on considère que l'humanité peut encore vivre 10 000 ans, ce qui est peut-être beaucoup, je ne sais pas. Alors, bien évidemment, là, on est en train de parler d'échelles de temps qui sont très, très au-delà des échelles de temps auxquelles on est habitué à raisonner. L'échelle de temps, déjà, la plus longue à laquelle on raisonne, c'est notre vie ou, à la rigueur, la vie de nos enfants. C'est très rare qu'on se projette sur 4 générations. Et c'est surtout très, très au-delà des échelles de temps qu'on a l'habitude d'utiliser quand on gère la collectivité des hommes, enfin la collectivité humaine. On est quand même habitué aujourd'hui à raisonner au pas de temps de l'année, de quelques années. Un compte de résultat d'une entreprise, c'est une année. Un mandat électif, c'est quelques années. La stratégie de long terme dans une société cotée, c'est 3 ans les bonnes années, 6 mois les mauvaises. Donc voilà, on est quand même très très habitué aujourd'hui à gérer l'essentiel de ce qu'on fait sur des pas de temps qui sont très courts. Alors que là, il faudrait recommencer à faire comme Colbert, qui plantait des chênes pour qu'un siècle et demi après, on puisse avoir des arbres avec lesquels faire de la marine de guerre. Hein, c'était... Donc il y a une asymétrie totale entre les temps caractéristiques de cette affaire-là et les temps caractéristiques de nos modes de gestion aujourd'hui. Alors parlons de COP. COP. Ici, alors donc comme le CO2 a une durée de vie très très longue dans l'atmosphère, enfin ou le surplus de CO2 a une durée de vie très très longue dans l'atmosphère une fois qu'il y est, eh bien plus on émet, plus la quantité de CO2 dans l'atmosphère augmente. Hein. Et ici vous avez la quantité de CO2 dans l'atmosphère qui est graduée en parties par million. Alors une partie par million, c'est 1 millilitre par mètre cube, hein, pour que vous ayez une petite idée. Voilà, c'est pas beaucoup. Et donc, vous avez la quantité de CO2 dans l'atmosphère, alors quasiment depuis l'année de ma naissance, depuis 1959. Vous voyez, au moment où je suis né, il y avait un peu moins de 320 millilitres par mètre cube dans l'atmosphère. Enfin, non, je suis né un peu après 1959. Donc, allez, il y avait 320 millilitres par mètre cube de CO2 dans l'atmosphère. Aujourd'hui, on est quasiment à 420, c'est-à-dire 100 de plus. Vous allez me dire, c'est pas beaucoup, hein, millilitres par mètre cube. C'est quand même... Alors, on va voir si, malheureusement, ça fait quand même beaucoup. Et ce que vous voyez sur ce graphique, c'est que avant qu'il y ait des COP, ça évolue exactement de la même manière qu'après qu'il y ait des COP. Exactement pareil. La COP 1 a eu lieu en 1995, s'il y a ici un Suisse émigré. Est-ce que vous savez dans quel pays ça a eu lieu ? La ministre de l'Environnement, car c'était une femme, qui a présidé la COP1, et vous la connaissez toutes et tous. Angela Merkel, absolument. Donc la COP1 a eu lieu en Allemagne, et à l'époque, c'est Angela Merkel qui l'a accueillie. Alors vous voyez, c'est un gros succès. C'est l'année où la Convention climat a été ratifiée par tous les pays et entre en vigueur. C'est un énorme succès, hein, d'accord ? Bon, regardez ce qui se passe avant, regardez ce qui se passe après. Après, il y a le protocole de Kyoto, qui est toujours un gros succès, puisque à ce moment-là, les pays dits riches, c'est-à-dire les pays de l'OCDE, prennent l'engagement de baisser leurs émissions en valeur absolue. Bon, vous voyez le résultat. Après, il y a eu Copenhague, où j'étais, qu'on a qualifié de gros échec. Bon. Après, il y a Paris, gros succès. Bon. Et Glasgow. Bon. Alors, en fait, il y a un énorme malentendu avec les COP. Il y a un énorme malentendu. C'est que nous pensons que les COP vont être capables de régler, je ne sais pas où, dans l'espace international, un problème dont on ne s'occupe pas nous-mêmes. Mais c'est une chimère. C'est une chimère. Il n'y a pas de maître du monde. Ça n'existe pas. Depuis le traité de Westphalie, les États sont souverains. Il n'y a pas de maître du monde. Donc, c'est une illusion de penser que les COP vont régler ailleurs et pour nous un problème qu'aujourd'hui, nous n'acceptons pas de régler ici et maintenant. Le problème se réglera ici et maintenant. Et le jour où tous les pays du monde auront réglé le problème ici et maintenant, alors les COP seront des succès. Et c'est bien dans ce sens-là que ça se passe. Et donc la meilleure conclusion, je ne sais pas si vous connaissez ce journal satirique qui s'appelle le Gorafi. Il y en a qui connaissent le Gorafi. Le Gorafi avait fait un très très bon résumé de la COP26. L'article du Gorafi, c'était « La COP26 s'engage à recycler les engagements de la COP25 ». Bon, exactement ça. Mais la faute, c'est la nôtre. C'est celle de tous les citoyens consommateurs du monde qui aujourd'hui n'arrivent pas à s'organiser de telle sorte que leurs représentants élus s'occupent sérieusement du problème. Et on n'arrive pas à régler nos propres contradictions. Hein, c'est ça le problème. Donc, plus de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, la température de la planète va s'élever. Alors, de combien ? On peut déjà commencer par regarder ce qu'on a eu dans le passé. Alors, sur cette courbe, vous voyez, il y a un zéro sur l'échelle verticale. Le zéro, c'est une référence, c'est une échelle relative, c'est la température moyenne de la planète, ce qu'on appelle la température au sol, parce qu'elle n'est pas partout la même dans toute l'atmosphère. Donc, c'est la température moyenne de la planète avant qu'on commence à cracher significativement des émissions de gaz à effet de serre, et en pratique, c'est la deuxième moitié du 19e siècle qui sert d'étalon. D'accord ? Donc, vous prenez la moyenne 1850-1900, hein, sur toute l'année, sur toute la surface de la Terre, et vous dites, c'est ça, la température moyenne de la planète. Ce que vous voyez, c'est qu'à la fin du XXe siècle, donc en l'an 2000, on a gagné à peu près 1 degré par rapport à cet étalon. Et à l'heure où on se parle, là, on a gagné à peu près 1,2 degré par rapport à cet étalon. Alors à 1,1 ou 1,2 degré, on a déjà 15% des coraux qui sont morts. On a déjà, alors non pas, je ne connais pas les chiffres pour les éleveurs, je ne pense pas, qu'il y ait beaucoup de décès chez les bovins, mais par contre, vous avez eu déjà en France, sur les dernières années, une année où la récolte de patates a fait moins 40%. Une année où le Doubs a été quasiment à sec. Une année où le Rhin a tellement baissé que les barges ne pouvaient plus passer. Une année où la récolte de blé, enfin de céréales, a fait moins, je ne sais plus combien, 20-30%. Vous avez au Canada cette année la récolte de blé dur qui a fait moins 40%. Vous avez la récolte sur un certain nombre de productions fruitières cette année qui va faire moins 50%. Et le gel tardif est une conséquence directe du réchauffement climatique. La végétation débourre plus tôt au printemps, les épisodes de gel ont lieu au même moment, et crac, vous pouvez dire adieu à la production. Donc, à 1,1 degré, vous avez déjà des espèces d'arbres en France qui sont condamnées. Hein, une partie des épicéas, rien qu'à 1,1 degré, ils sont déjà hors zone de confort. Bon. Donc 1,1, on se dit, bon, c'est pas grand-chose, il y a déjà 50 degrés au Canada, il y a déjà des jolies canicules, il y a déjà eu l'été 2003, enfin voilà, donc c'est quand même pas complètement négligeable. Et alors pour l'avenir, tout dépend de ce qui va se passer au niveau de nos émissions. Donc si on fait accord de Paris, on reste sous les 2 degrés, c'est la trajectoire qui est en bas, et si on y va à fond dans le charbon, on est plutôt sur la trajectoire du haut. Un des points majeurs, je reviendrai après, un des points majeurs qu'il faut avoir en tête, c'est que quand vous regardez ce graphique, vous voyez qu'entre la fin de la courbe noire et 20 ans plus tard, les divers scénarios sont très très peu différenciés. Et en particulier, à part le scénario charbon-adonf, auquel je ne crois pas, mais je vous dirai à la fin de cette intervention pourquoi. Vous voyez que tous les autres, quasiment, ils sont superposés l'un sur l'autre sur les 20 prochaines années. Ça veut dire quoi cette histoire ? Ça veut dire que l'inertie du système est telle que, à partir du moment où on décide de commencer à agir et où on le fait pour de vrai, eh bien, on ne voit vraiment les résultats de cette action que 20 ans derrière. Alors, je vais vous le dire autrement, changement climatique, c'est une voiture, quand vous commencez à appuyer sur la pédale de frein, la première chose qui se passe, c'est que pendant les 20 ans qui suivent, la voiture accélère encore plus. Hein ? C'est ça, le changement climatique. Ce qui veut dire qu'en même temps qu'on est obligé de s'occuper de baisser les émissions pour éviter que beaucoup plus tard, ça soit dramatique, il faut pourtant se préparer à un climat qui va continuer à dériver et devenir moins sympathique que celui qu'on connaissait. On va devoir faire les choses, les deux, en même temps. Il va donc y avoir ce qu'on appelle classiquement l'évitement, les Anglais appellent ça mitigation, et l'adaptation, pour autant qu'on puisse s'adapter, parce qu'il y a des trucs auxquels on ne s'adaptera pas, on va juste prendre des baffes. Hein ? Mais il va falloir faire les deux. Alors, vous voyez qu'à la fin du siècle, dans le scénario charbon à donf, on a gagné 4 degrés par rapport à la température pré-industrielle. Alors, 4 degrés, est-ce que c'est beaucoup ou pas beaucoup ? Alors, pour le savoir, on va faire un petit retour dans le passé. Vous avez ici une vision de ce à quoi ressemblent les écosystèmes européens. Alors, quand je dis actuel, c'est plutôt celle du XXe siècle, mais peu importe. Les écosystèmes du XXe siècle en Europe, si on leur fiche la paix et qu'on les supprime pas pour faire des pâturages très utiles et tout le reste très inutile. Non, si on les supprime pas pour faire des cultures, des routes, tout ce que les hommes ont fait à la place de là où il y avait des écosystèmes. Vous voyez qu'il y a essentiellement des forêts. Donc en gros, ce qui pousse spontanément les écosystèmes à l'équilibre, j'ai envie de dire en Europe, si on leur fiche la paix, c'est essentiellement des écosystèmes forestiers. À l'est, c'est trop sec. Au nord, c'est trop froid et trop sec. Voici l'Europe, il y a 20 000 ans. Alors, il y a 20 000 ans, nous sommes au cœur de la dernière ère glaciaire, parce que dans le cadre des variations spontanées du climat, parce qu'évidemment, le climat varie sans homme pour le tripoter, hein, juste les variations ne sont pas aussi rapides. Eh bien, il y a 20 000 ans, l'Europe est au cœur de la dernière ère glaciaire, enfin, la Terre est au cœur de la dernière ère glaciaire, il fait beaucoup plus froid, et le paysage est un peu différent. D'abord, vous n'exportez pas de Roquefort chez les Suédois, il n'y a pas de Suédois, ils sont sous 3 km de glace, et vous n'exportez pas plus de Roquefort chez les Canadiens, car les Canadiens sont sous 3 km de glace aussi. Vous avez des calottes monstrueuses, énormes, qui recouvrent tout le nord de l'Europe, le Canada, le nord de la Russie, et par contre, je sais que dans le sud-ouest, le rugby, c'est important, là, j'ai une bonne nouvelle, vous voyez que les Écossais et les Irlandais sont sous la glace, les Irlandais surtout, les Écossais, on arrive à les battre, mais les Irlandais, c'est plus... voilà. Donc vous avez beaucoup, beaucoup de glace qui recouvre une partie de l'Europe du Nord. Alors ce gros glaçon est constitué d'eau. L'eau, il a bien fallu la prendre quelque part. Hein. Elle n'est pas venue de Mars, et en fait, l'eau a été prise dans l'océan. Il n'y a que dans l'océan où on peut prendre suffisamment d'eau pour faire des gros glaciers de 3 km d'épaisseur. Et comme le fond de l'océan est toujours au même endroit, hein, le niveau de l'océan a baissé de 120 mètres. Alors pour ceux d'entre vous qui connaissent cette histoire, on peut rentrer à pied dans la grotte Kosker, qui aujourd'hui est une grotte où on rentre en plongée. Hein, l'entrée est à 27 mètres sous l'eau. Puis après, il y a une espèce de boyau ascendant, et la sortie du boyau est au-dessus du niveau de l'eau, et donc il y a des peintures, comme à Lascaux, hein, des peintures antiques, et qui sont dans une grotte dont l'entrée est sous-marine. Et donc il n'y a pas de Brexit, donc M. Barnier a la vie tranquille, puisque vous voyez, il y a une continuité territoriale entre ce qui reste de la Grande-Bretagne, qui n'est pas sous la glace, et la France. Il fait beaucoup plus froid, donc il fait beaucoup plus sec. Il ne vous aura pas échappé que l'hiver, quand il fait très froid, c'est rare qu'il y ait des énormes précipitations. Hein. Quand il fait très très froid, en général, il fait très très sec, tout simplement parce qu'il y a peu d'eau qui peut s'évaporer dans un air très froid. Et donc, les précipitations en Europe sont beaucoup plus faibles qu'aujourd'hui, et par ailleurs, le climat est beaucoup plus rude, il fait beaucoup plus froid. Et donc, les écosystèmes installés en Europe sont beaucoup plus maigres, et les quelques chasseurs de mammouths et cueilleurs d'érelles que nous trouvons à l'époque sont par exemple au nombre de 100 000 en France. Hein ? Donc la population française compte à peu près 100 000 âmes, et donc je pense que l'Aveyron compte pas beaucoup, à ce moment-là. C'est tout ce qu'un écosystème maigrichon, comme celui qu'on a à cette époque, peut nourrir d'hommes. Alors quand on est passé de l'état de gauche à l'état de droite, en ce qui concerne l'Europe, ça s'est opéré dans le cadre d'un réchauffement global de la planète, et encore qui a eu lieu pour des raisons parfaitement naturelles. Et ce réchauffement global, il est de l'ordre de 4 à 5 degrés en 10 000 ans. Donc là, vous voyez le résultat d'une expérience grandeur nature qui a été faite par la planète Terre pour nous dans le passé. C'est se réchauffer de 10 000 ans, de 4 à 5 degrés pardon, en 10 000 ans. Vous voyez l'ampleur de la modification que ça engendre. Hein, vous voyez l'ampleur de la modification que ça engendre. Alors pour comprendre que là, on n'est pas du tout en train de parler de la même chose, je vais vous le dire d'une autre manière. Vous avez ici, toujours avec le même zéro de référence, la température moyenne de la planète sur les 20 000 dernières années. Évidemment, j'en ai caché une partie, sinon c'est spoiler. Et vous voyez là la température, pour commencer, qu'il y a eu entre 8000 ans avant la naissance de Monsieur Jesus Christ et 2000 ans après, donc les 10 000 dernières années. Et vous voyez que cette température, elle n'est pas exactement stable, mais elle a varié d'une fraction de degré seulement. Hein, elle varie d'une fraction de degré seulement. Et c'est ce qui nous a permis d'être dans cette salle. Car la stabilité climatique des 10 000 dernières années correspond comme par hasard à la sédentarisation des hommes. Vous savez que la fin de la préhistoire, c'est il y a 10 000 ans. C'est-à-dire, il y a 10 000 ans, nous sortons d'une civilisation de chasseurs-cueilleurs nomades, se déplaçant au gré des endroits où on arrivait à manger suffisamment pour survivre et faire quelques enfants, à une civilisation où c'est plus nécessaire de se balader au cours du temps, puisqu'au cours du temps, le climat reste constant, et donc on peut commencer à développer une agriculture et à la perfectionner au fil des civilisations, processus dont nous sommes les lointains héritiers. Alors, avant... Il y a la déglaciation, la voici. Donc on passe des mammouths aux salers, ou aux aubraques. Et après, voilà ce qui s'est passé au cours du XXe siècle. Et voilà ce qui pourrait se passer au cours du XXIe siècle. Avec, là, on n'est même pas dans le scénario charbon à donf. On est dans un scénario dans lequel, allez, on va dire, on racle jusqu'au fond les réserves de pétrole et de gaz et le charbon, pas la totalité. Vous voyez qu'on est en train de parler de quelque chose de considérablement plus brutal. Alors, je vais reprendre le parallèle de ma voiture. Vous avez deux manières de passer de 100 km/h à 0 km/h en voiture. La première, c'est de le faire en 4 secondes. Vous êtes secoué, hein, mais vous êtes vivant. La deuxième manière, c'est de le faire en 4 centièmes de seconde. Là, vous êtes mort. Vous êtes un peu aplati, oui. C'est exactement la même chose quand on parle du climat. Entre 4 degrés en 10 000 ans et 4 degrés en un siècle, on peut prendre exactement le même parallèle. Hein, exactement le même parallèle. Très clairement, je vais maintenant vous détailler quelques conséquences, mais très clairement, une transition de cette ampleur à cette vitesse, vous pouvez retenir que ça sera le bazar partout et notamment probablement la guerre partout. Mais au sens premier du terme, c'est-à-dire que les gens vont se taper dessus. C'est très exactement ça qui nous attend, je pense, si on mène l'expérience à son terme. Alors maintenant, je vais vous donner quelques détails. Un certain nombre d'entre vous probablement lu un certain nombre de choses sur le climat dans le journal. Je vous fiche mon billet que tout ce que je vais vous raconter maintenant, vous l'avez quasiment jamais lu dans le journal, qui ne cesse de dire « on risque 4 degrés, bon très bien, on risque 4 degrés, bon très bien, on risque 4 degrés, bon très bien, on risque 4 degrés, enfin, bon, voilà. » Donc en fait, ça veut dire quoi? Alors voilà une première conséquence. Ici, vous avez une publication qui est sortie il y a quelques années et qui donne le nombre de jours par an où il n'est pas possible de rester à l'extérieur sans mourir dans un climat qui se serait réchauffé, alors non pas de 4, mais de 5 degrés par rapport à l'époque pré-industrielle, donc de 4 degrés par rapport à maintenant. Donc c'est vraiment très très haut. Hein. Alors pourquoi est-ce que les gens meurent ? Parce que vous voyez que ça concerne avant tout la zone équatoriale. Donc la zone équatoriale est une zone qui est humide et c'est un endroit où l'air est souvent saturé d'humidité. Un air saturé d'humidité, ça veut dire qu'il contient déjà toute l'eau qu'il peut contenir et vous ne pouvez plus mettre de l'eau supplémentaire dedans. Et ça veut dire en particulier que si vous êtes dans ce genre d'atmosphère, vous ne pouvez pas transpirer pour évacuer votre chaleur parce que la transpiration, c'est l'évaporation de la sueur à la surface de votre peau. Et si vous ne pouvez pas évaporer d'eau, vous ne pouvez pas transpirer. Et si dans ce genre d'endroit, il fait plus que la température de votre peau, c'est-à-dire plus de 35 degrés, eh bien, vous ne pouvez pas vous refroidir en rayonnant de la chaleur, puisque l'air est plus chaud que vous, et vous ne pouvez pas vous refroidir en transpirant, puisque l'air est plus humide que vous. Et donc, vous mourrez d'hyperthermie. Et vous voyez que dans un monde qui se serait réchauffé de 4 degrés par rapport à aujourd'hui, il y a à peu près 2 milliards d'individus hein, l'Asie du Sud-Est, l'Inde, etc., qui se retrouvent dans des endroits où plus de la moitié de l'année, vous ne pouvez pas travailler en extérieur. Et en particulier, vous ne pouvez pas avoir d'agriculture. Alors vous comprenez bien que plus on ira vers ce genre de situation, plus ces gens-là vont se dire « on ne va pas rester où on est, on va bouger ». Alors ils ne bougeront pas nécessairement beaucoup, 50 km, 100 km, 200, 300, mais enfin de proche en proche, ça suffit pour déstabiliser les régions. Et là, voilà un premier motif pour lequel les gens pourraient facilement se taper dessus, parce que les flux migratoires seront excessifs et supérieurs aux capacités d'accueil. Cette élévation de température, elle ne va pas se faire de manière homogène en ce qui concerne les vagues de chaleur. C'est-à-dire qu'un degré de plus, c'est pas un degré de plus toute l'année, partout et tout le temps, nuit et jour, hiver comme été, etc. Et en particulier, ça va aller beaucoup plus vite sur les extrêmes de température. Ici, vous avez un graphique qui vient du dernier rapport du GIEC et qui vous dit que un événement qui actuellement, dans la période pré-industrielle, plus exactement, donc dans la deuxième moitié du 19e siècle, arrivait tous les 10 ans, avec un réchauffement à 4 degrés, il arrivera 9 fois sur 10, enfin 9 années sur 10, ça sera plus chaud que cette. Enfin, ça, on aura cet événement décennal ou plus. Et en fait, le maximum de température qui sera atteint à cette occasion pourra être de 5 degrés supérieur à ce que c'était dans l'époque pré-industrielle. Donc les canicules seront 9 fois plus fréquentes. Et la température maximale atteinte, éventuellement 5 degrés plus élevée. Et en ce qui concerne les canicules qui n'avaient lieu qu'une fois tous les 50 ans, eh bien dans un monde à 4 degrés, ça arrive 40 fois plus souvent, hein, avec là aussi une température qui est 5 degrés plus élevée. Donc ça veut dire que les extrêmes de température vont augmenter beaucoup plus vite, hein, les épisodes caniculaires plus exactement, vont se multiplier beaucoup plus vite que l'élévation de température. Ça ne va pas être proportionnel à l'élévation de température. Ça va augmenter beaucoup plus vite que ça. Deuxième chose qui va se passer, c'est que les saisons vont se modifier. Alors, je ne vais pas commenter ce graphique en détail parce qu'il vous donne l'allongement et ou le rétrécissement des saisons. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que toujours dans un scénario à 4 degrés, l'été passerait de 3 à 6 mois, l'hiver de 3 à 1 mois, en gros, hein, et l'automne et le printemps perdraient chacun un mois. Après, dans un scénario à 2 degrés, c'est moins marqué, mais c'est le même esprit. Une élévation de température, ça modifie le cycle de l'eau. Vous l'avez vu tout à l'heure, dans un climat qui se réchauffe, l'évaporation va avoir tendance à s'intensifier, parce que la surface de la planète étant plus chaude, et par ailleurs l'air étant plus chaud, il peut emmener plus de vapeur d'eau, et donc, enfin, il peut emporter plus de vapeur d'eau, donc l'évaporation va avoir tendance à augmenter. Et donc ça veut dire que les précipitations vont avoir tendance à augmenter aussi. Donc un climat globalement plus chaud est un climat globalement plus pluvieux. Mais ça ne sera pas plus de pluie partout et tout le temps et sous la même forme. Ce que vous voyez ici, c'est un certain nombre de zones où il ne va pas pleuvoir plus, mais il va pleuvoir moins. Et vous voyez que malheureusement pour nous, une partie des endroits où il va pleuvoir moins, c'est le sud de l'Europe, là, tout le pourtour du bassin méditerranéen. C'est un endroit où, dans le cadre du réchauffement climatique, il est anticipé, et c'est malheureusement déjà en cours, que les précipitations baissent. Ce n'est pas une bonne nouvelle, hein. L'eau, c'est quand même la vie. Ça ne va pas empêcher l'augmentation des épisodes pluvieux intenses. Et là aussi, plus le climat se réchauffera, plus les épisodes pluvieux intenses deviendront nombreux. Et alors, vous pouvez très bien avoir plus de pluie, plus mal répartie. Auquel cas, j'espère ne pas être contredit par les agriculteurs dans cette salle, ça ne fait pas votre affaire. Hein ? Parce que quand il pleut énormément, bah, tout s'en va, ça ne reste pas dans le sol. Pire, ça ravine. Donc des fois, de temps en temps, ça emporte une partie du sol, hein, notamment quand les sols sont nus l'hiver. Et à ce moment, donc vous pouvez avoir la même quantité de pluie dans l'année, sauf qu'elle tombe à un moment où une partie ruisselle très rapidement, et vous vous retrouvez quand même à l'arrivée avec des sols plus secs. Et en fait, c'est exactement ce qui va se passer dans un nombre croissant de régions dans le monde. Ici, vous avez l'évolution de l'humidité des sols dans un monde qui s'est réchauffé de 2 degrés. Et ce que vous voyez, c'est que énormément de pays des moyennes latitudes ont des sols qui s'assèchent. C'est le cas pour toute l'Europe, c'est le cas en fait pour tout le pourtour du bassin méditerranéen, c'est le cas pour l'Europe centrale, c'est le cas pour l'Amérique du Nord, c'est le cas, très mauvaise nouvelle pour l'Amazonie, pour une bonne partie de l'Amérique du Sud, c'est le cas pour la Chine, c'est le cas pour l'Asie du Sud-Est. Donc vous voyez, et ça c'est parce que, encore une fois, d'une part la pluie est plus mal répartie, et d'autre part, il n'y a pas que la pluie qui augmente, il y a aussi l'évaporation qui augmente si le climat est plus chaud. Or, ce qui compte pour les végétaux, c'est bien l'humidité du sol. C'est bien ça qui compte, pour faire en sorte que les végétaux se portent bien. Ça, plus le stress hydrique des plantes, plus le stress thermique, parce qu'il y a un stress thermique qui peut s'appliquer aux végétaux également, fait que vous allez avoir une pression sur les écosystèmes qui va globalement leur être néfaste à peu près partout et tout le temps au premier ordre. Ici, vous avez un graphique, alors j'attends avec impatience, enfin non pas avec impatience, parce que ce n'est pas une bonne nouvelle, mais l'équivalent dans le rapport du GIEC qui va sortir dans pas longtemps, là, l'année prochaine, sur les conséquences du réchauffement climatique. Donc ça, c'était la dernière édition en 2014. Mais vous voyez l'évolution des rendements agricoles dans le monde. Donc là, le zéro de référence, c'est les rendements actuels, hein. Et ce que vous voyez, c'est que les rendements agricoles, ils vont baisser, quel que soit le type de région, là les régions tropicales et là les régions tempérées, et quelles que soient les mesures d'adaptation qu'on pourrait prendre ou pas. Hein, c'est-à-dire que le changement climatique est plus puissant que les mesures d'adaptation qu'on peut prendre dans la quasi-totalité des cas. Et ce que vous voyez, c'est que les rendements agricoles, ils devraient perdre 2% en gros par décennie à cause du changement climatique. Alors ça peut aller plus vite que ça dans un certain nombre d'endroits. Et en fait, ce genre d'études, on s'est rendu compte ces dernières années qu'elles étaient plutôt conservatrices, malheureusement, parce qu'elles ne tenaient pas compte d'un certain nombre d'effets d'amplification qu'on peut avoir. Par exemple, sur les ravageurs, c'est extrêmement difficile de faire des projections à long terme. Savoir comment est-ce que le scolyte va se comporter sur les PCA à 50 ans, c'est compliqué, hein. Il suffit d'une poussée particulièrement violente, et puis de toute façon, les arbres sont morts, et donc ce qui va se passer dans 50 ans n'est plus un problème, parce qu'à 30 ans, ils sont morts. Donc, ce genre de projection, ça reste des choses qui sont fragiles. Par contre, ce qu'il faut retenir, c'est que la tendance à long terme, elle est adverse. Là, vous avez un exemple plus précis, c'est une analyse qu'on a dû faire à Carbone 4 quand on a pour un client, et on a regardé avec les données météo le nombre d'épisodes où il y avait 3 jours en juin où la température montait au-dessus de 25 degrés, 3 jours consécutifs. Hein. Parce qu'il se trouve que, en l'occurrence, pour les cultures qu'on a regardées, ça baissait les rendements. Eh bien, vous voyez que dans le climat de la fin du XXe siècle, ça n'arrive pas. Et à 2050, avec un scénario intensif... Alors, à 2035, en fait, on a mis le scénario intensif, mais quel que soit le scénario, c'est le même résultat, parce que je vous ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de différence entre les scénarios à 20 ans. Et à 2050, avec un scénario intensif, mais ça serait presque pareil avec un scénario qui l'est moins, vous voyez qu'il y a une bonne partie des zones là, dans cette région, où vous avez ce genre d'épisode 2 fois par an, enfin entre 1 et 2 fois par an, donc tous les ans vous êtes à peu près sûr de l'avoir. Sur les écosystèmes, en fait, le début de changement climatique a déjà commencé à exercer aussi un effet de pression important. Cette carte, elle a un code couleur, donc vous avez 2 cartes, une en haut représente la situation avant 2000 et en bas c'est après 2000, enfin 1999, et le code couleur est le suivant. Si le code couleur est vert, ça veut dire que année après année, la photosynthèse augmente. Dit autrement, année après année, les écosystèmes répondent à l'augmentation du CO2 et l'augmentation de la température en croissant plus vite. La photosynthèse augmente, nonobstant le fait qu'il peut y avoir éventuellement des variations de précipitations, etc. Quand le code couleur est rouge, ça veut dire que année après année, la photosynthèse baisse. Donc les écosystèmes ont toujours une photosynthèse, hein, ils sont toujours vivants, mais ça veut dire que année après année, ils sont de moins en moins vigoureux. C'est ça que ça veut dire. Eh bien, vous voyez qu'en 2000, il y a un certain nombre de zones où la situation a déjà basculé. Et là, il ne s'agit que de la photosynthèse. Il ne s'agit même pas de la destruction d'écosystèmes à cause des incendies qui viennent se rajouter par-dessus. Donc ce que vous voyez, c'est qu'il y a un certain nombre d'écosystèmes qui commencent déjà à souffrir du réchauffement climatique. Le stress hydrique et le stress thermique est déjà suffisant pour que, dès à présent, hein, leur vigueur se soit inversée. Et donc, ils étaient de plus en plus vigoureux, parce qu'on était au début du réchauffement, c'était plutôt pas mal. Et là, maintenant, c'est en train de s'inverser. Alors, si je reviens à l'agriculture, vous avez ici un graphique qui a été publié par le GIEC en 2019 et qui vous donne la sévérité des conséquences, pour un certain nombre de conséquences, c'est en anglais, mais je vais m'intéresser qu'à ça, hein. Pour un certain nombre de conséquences, et le code couleur, il est toujours le même, en moutarde, là, vous êtes dans des conséquences qui sont locales et gérables. Et quand vous passez dans le pourpre, vous êtes dans le global et pas gérable. Et ce que vous voyez, c'est qu'à 2,5 degrés de réchauffement, c'est la barre de droite qui m'intéresse, l'insécurité alimentaire devient généralisée et probablement pas gérable. Alors pour tous ceux d'entre vous qui se souviennent de leur cours d'histoire, la disette, c'est un très très bon facteur de déstabilisation politique. Ça fait sauter les régimes comme qui rigolent. C'est exactement ce qui s'est passé au moment de la Révolution française. C'est exactement ce qui s'est passé au moment du printemps arabe. Là, je pense que dans cette salle, vous le savez, hein, le printemps arabe, ça a été des émeutes de la faim à cause d'une inflation alimentaire totalement intolérable. Donc là, ce que je suis... C'est pour ça que le titre de cette planche n'est, j'espère, une mauvaise blague. Peut-être pas. À partir du moment où les gens qui ont l'habitude d'avoir à manger commencent à avoir des vrais problèmes d'accès à l'alimentation, eh bien, on peut attendre des choses qui ne sont pas nécessairement très sympathiques. Il y avait, il y a quelques jours, un article de Géo qui expliquait qu'entre les incendies de cette année qu'il y a eu en Californie, vous savez, il y a eu des incendies absolument monstrueux, et les incendies qu'il y a eu les années précédentes en Californie, où il y avait déjà eu des incendies absolument monstrueux, il y a probablement 20% des séquoias géants qui sont déjà morts. En France, vous avez ici une carte qui vous donne le degré d'inflammabilité des forêts, donc le risque d'incendie. Dans, encore une fois, la fin du XXe siècle et le début du XXIe, c'est la période de référence tout à gauche, et comment ça évolue au cours du temps avec un scénario intensif. Alors, l'horizon proche, je le rappelle, est indépendant du scénario. Donc, ce que vous voyez, c'est que dans l'horizon proche, vous avez déjà un certain nombre de régions dans le nord de la France qui sont inflammables comme le haut de la vallée du Rhône aujourd'hui. Et si vous allez à 2050, où déjà les scénarios commencent à se différencier un peu, mais pas tant que ça, eh bien vous voyez qu'en 2050, vous avez aussi des régions du centre qui deviennent, alors là pour le coup, inflammables comme l'arrière-pays méditerranéen aujourd'hui. Hein, vous voyez, là, ces régions-là, là, qui sont des régions boisées, hein, sont inflammables comme l'arrière-pays méditerranéen aujourd'hui. Et en 2100, bah, c'est une bonne partie de la France. Alors vous faites partie des chanceux, voilà, vous êtes les astérix de l'incendie. Sinon, vous voyez qu'une bonne partie de la France, en gros, est inflammable, comme l'arrière-pays méditerranéen aujourd'hui. Et alors évidemment, les gros incendies, hein, il suffit d'une fois, puis après, il n'y en a pas d'autres, parce que de toute façon, la forêt a brûlé. Les phénomènes extrêmes vont s'intensifier. Ils ne vont pas nécessairement se multiplier en nombre. Par contre, ils vont devenir plus vigoureux. Alors, la raison à cela, elle tient à ce que la petite animation sur le réchauffement climatique que je vous ai montrée au début. Je vous ai dit, la température près du sol augmente dans le cadre du réchauffement climatique, mais comme le rayonnement terrestre, il est capté plus vigoureusement près du sol quand il y a plus d'effet de serre, du coup, il y en a moins pour être capté par la haute atmosphère et en particulier la stratosphère. Dans le cadre du réchauffement climatique, la température au sol augmente, mais la température de la stratosphère diminue. Ce qui veut dire que l'écart de température entre le sol et la stratosphère augmente. Et cet écart de température, c'est lui qui engendre les mouvements convectifs de l'air qui mettent en route les phénomènes extrêmes. Alors quand ce mouvement convectif a lieu au-dessus de l'océan tropical, ça s'appelle un ouragan. Et quand il a lieu au-dessus de la Terre l'été, ça s'appelle un orage. Hein ? C'est pour ça qu'il y a des orages l'été et pas l'hiver, parce que la température de la stratosphère est à peu près la même toute l'année. Par contre, la température au sol est beaucoup plus élevée l'été, donc la différence de température est beaucoup plus importante, et donc ça fait des mouvements convectifs qui sont beaucoup plus forts. Et puis aussi, il y a des gens qui font planeur dans cette salle, ils le savent très bien, les courants ascendants des cumulonimbus sont des courants particulièrement puissants. Donc les phénomènes extrêmes vont être mis en route par un moteur qui sera plus puissant, et donc ils vont devenir plus intenses. Ça veut dire que les ouragans vont avoir des précipitations, des maximums de précipitations plus élevés. Là aussi, je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité récente, mais il y a un ouragan qui s'appelle Ida qui est passé sur New York il n'y a pas longtemps. Eh bien, les records de pluie qui ont été enregistrés dans l'État de New York, il y a eu des précipitations sur 3 heures qui étaient quasiment du double du record précédent. Du double. Donc les précipitations intenses vont augmenter dans le cadre des ouragans et les vents intenses, la force maximale des vents va augmenter également. On observe également ces dernières années des ouragans qui s'intensifient à une vitesse extrêmement, enfin jamais vue auparavant, c'est-à-dire qu'en l'espace de 24 heures, ils passent de catégorie 1 à catégorie 5. Quoi. Ça c'est pareil, c'est des trucs qu'ils ne voyaient pas avant. le niveau de l'eau va monter sur l'océan. Bon, là, ça, vous allez me dire, ça ne vous concerne pas. Vous êtes très au-dessus de l'océan. Mais vous allez voir si ça vous concerne quand même. Vous allez voir pourquoi. Donc, le niveau de l'eau va monter. Alors, pourquoi est-ce que le niveau de l'eau va monter ? Parce que quand vous chauffez l'eau, elle se dilate. Et donc, quand vous chauffez l'océan de surface, dans le cadre du réchauffement climatique, ben, l'eau se dilate et le niveau de l'eau monte. Et puis, la deuxième chose qui fait monter le niveau de l'eau, c'est la fonte de tous les glaçons qui sont posés sur Terre, donc à la fois la mer de glace et les calottes antarctiques et groenlandaises. Et alors, en fait, c'est les calottes antarctiques et groenlandaises qui recèlent l'incertitude maximale et le risque maximal à long terme. Le Groenland a déjà commencé à fondre. Et à partir de maintenant, les mouvements, la dynamique de cette fonte fait qu'elle va continuer au cours du temps, quoi qu'on fasse. Donc même si on arrête les émissions demain matin, ils continuent à fondre. L'Antarctique est également devenu un contributeur à la hausse du niveau de la mer. Pendant longtemps, on n'a pas su. Et en particulier, il y a un gros point d'interrogation sur ce qu'on appelle l'Antarctique de l'Ouest, où là, vous avez un glacier émissaire qui est en train de ficher le camp rapidement vers la mer. Alors l'Antarctique de l'Ouest, c'est quoi ? C'est un château de cartes de glaciers qui sont arc-boutés les uns sur les autres, et l'ensemble est posé sur un socle rocheux qui est sous-marin. Donc c'est un édifice qui est un peu instable, et si les glaciers émissaires, là ceux qui se déversent dans la mer, commencent à être déstabilisés parce que la mer qui se réchauffe et qui monte vient les grignoter par le bas, eh bien, il pourrait ficher le camp à vitesse accélérée dans la mer et l'ensemble de l'édifice se déstabilise et l'ensemble de la calotte se désagrège et fiche le camp dans la mer. Alors évidemment, ça va pas se faire en une semaine, mais les dernières publications scientifiques disent que à l'échelle de un ou quelques siècles, c'est pas impossible. Et c'est comme dans les contrats d'assurance, quand vous regardiez le graphique du GIEC où on vous donnait l'augmentation du niveau de la mer, donc l'augmentation du niveau de la mer elle est en bas, là, sur ce graphique, jusqu'en 2100, vous dites, bon, c'est pas beaucoup. Puis là, vous lisez les petits caractères pour 2300 et vous lisez les petits caractères en haut et vous lisez ça. 2300. Alors je peux vous dire qu'en Aveyron, en 2300, si la mer est montée de 15 mètres, vous allez le voir passer aussi parce qu'il n'y a plus un port. Et vous en dépendez. Tous ceux d'entre vous qui importent des aliments, bah, vous avez besoin des ports. Il n'y a plus une centrale électrique de bord de mer. Charbon, nucléaire, on s'en fout, il n'y en a plus une. Bon. Donc vous avez un tout petit sujet, même en Aveyron, avec la hausse du niveau de la mer. Nous avons tous un sujet avec la hausse du niveau de la mer parce que la mondialisation dépend de la côte. Même s'il n'y a plus de mondialisation du tout, on dépend de la côte aussi pour tout un tas de trucs. Ça va évidemment engendrer quelques mouvements de population. Donc vous avez ici ce à quoi ressemble le trait de côte du nord de l'Europe avec une mer qui serait montée de 9 mètres. Donc pas de 15 mètres, mais de 9 mètres. Voilà, donc Hambourg, fin de Hambourg. Alors pour ceux qui n'aiment pas le hareng, c'est une bonne nouvelle. Voilà, les Belges, les Wallons et les Flamands ont intérêt à bien s'entendre, parce que les premiers vont devoir accueillir les seconds. Voilà, mais enfin, même avant d'en arriver là, c'est évident qu'on aura des Xynthia à répétition, parce que c'est comme ça que ça va se passer, la hausse du niveau de l'océan. C'est que vous avez les infrastructures de bord de mer, les logements, les centrales, les ports, les terminaux ferroviaires, les silos, enfin ce que vous voulez, qui se rapprochent progressivement du niveau de l'eau. Et puis à l'occasion d'un phénomène extrême, comme il y en a toujours eu, même s'ils n'augmentent pas en intensité, pof, la mer franchit les défenses et va faire des dégâts derrière. C'est comme ça que ça va se manifester, les conséquences de la hausse du niveau de la mer. C'est pas de façon continue, comme la marée qui monte et puis on remonte la serviette. C'est pas comme ça que ça va se passer. Vous avez tous entendu parler du Gulf Stream. Alors en fait, le Gulf Stream, c'est pas lui qui réchauffe l'Europe. Le Gulf Stream est un courant qui boucle au niveau des tropiques. Ce qui réchauffe l'Europe, c'est une branche qui s'échappe du Gulf Stream et qui s'appelle la dérive nord-atlantique. Cette dérive nord-atlantique vient mourir au sud du Groenland où l'eau plonge à cause d'un phénomène. Je répondrai aux questions s'il y en a. Là, je ne vais pas vous le décrire en détail. Cette dérive nord-atlantique est extrêmement puissante. Alors moi qui suis parisien, donc chauvin parisien, non pardon, c'est pas vrai, je connais juste le débit de ce fleuve. Le débit de la Seine à Paris, c'est quelques centaines de mètres cubes à la seconde. Le débit du Rhône, au printemps, là, que la neige fond, etc., c'est un peu plus de 1000 mètres cubes à la seconde. La dérive nord-atlantique, son débit, c'est 25 millions de mètres cubes à la seconde. Costaud. Et là, vous avez, alors, 1 million de mètres cubes à la seconde, ça s'appelle un Sverdrup. Voilà. Vous auriez appris ça. Et le code, c'est SV. Alors, ici, vous voyez la baisse de cette dérive nord-atlantique qui est envisagée pour le 21e siècle. Vous voyez qu'en partant de 25, on perd 5 à 10. et vous voyez que c'est raisonnablement indépendant du scénario. Dit autrement, la très grande barre d'incertitude, elle vient de l'incertitude de modélisation, elle ne vient pas de l'incertitude du scénario. Et cet affaiblissement a déjà commencé. Et la question que tout le monde se pose, c'est est-ce que ça pourrait s'arrêter brusquement ? Processus qui a déjà eu lieu dans le passé, la dernière fois au cours d'un épisode qui s'est appelé le Dryas récent dans le cadre de la dernière déglaciation. Là aussi, je pourrais y répondre si il y a des questions que ça vous abuse. La réponse, c'est probablement pas au cours du 21e siècle. Après, c'est pas complètement impossible. Si ça se produisait, évidemment, ça ne supprimerait pas le réchauffement climatique global. Ça ne supprimerait même pas le réchauffement moyen en Europe. Par contre, ça nous rapprocherait probablement des conditions des Canadiens de la côte Est, c'est-à-dire avec des saisons considérablement plus marquées qu'en l'absence de cette dérive. Le fait qu'une partie du CO2 qu'on met dans l'atmosphère repasse dans l'océan rend ce dernier moins alcalin. C'est ce qu'on appelle l'acidification de l'océan. Et ça, ça empêche les petites bêtes qui doivent synthétiser du calcaire de bien se porter. Je vous fais grâce d'autres conséquences encore, l'augmentation de la biodiversité microbienne et notamment de la biodiversité des agents pathogènes. Il y a un certain nombre d'agents pathogènes. Vous savez, en général, quand on chauffe le bouillon de culture, les petites bêtes aiment bien ça. Donc, on va avoir une multiplication d'agents pathogènes nouveaux. Donc, le Covid, normalement, c'est pas ça. Mais il y aura un Covid du climat. Enfin, voilà, il y en a peut-être déjà. On ne saura jamais attribuer les causes. Donc, vous aurez ça aussi. Et alors, en bout de course, il y a nous. Nous, on peut donc, dans cette affaire, souffrir de plein de manières différentes. Et par ailleurs, comme on fait l'expérience pour la première fois, absolument personne ne peut vous faire un inventaire très précis des conséquences en vous disant à 1,52 degré de réchauffement, je prévois que la récolte de fourrage en Aveyron aura baissé de 58% très exactement. Voilà. Personne ne va vous faire un truc comme ça. Ça n'existe pas. Donc tout ce qu'on sait, c'est qu'on navigue dans un univers qui devient de plus en plus volatile et de plus en plus risqué. Et personne n'est capable de vous échéancer précisément et de vous quantifier précisément les claques qu'on va prendre. C'est toute la difficulté de ce problème. Donc on doit répondre avec des efforts certains, parce que si je vous dis maintenant il y a 20% de vos impôts qui vont passer dans la résolution de ce problème, c'est un effort certain, vous savez tout de suite ce que ça vous coûte. Je ne suis pas capable de vous dire si ça gagne au bout d'une semaine, de 15 jours, d'un mois, de 2 mois, de 6 mois, d'un an, de 15 ans, de 20 ans, de 50. D'accord ? C'est toute la difficulté du sujet. C'est toute la difficulté du sujet. On sait qu'on est en train de jouer avec le feu, au sens premier du terme, mais on ne sait pas quand est-ce qu'on va s'en prendre une énorme sur la tête, ce qui fait qu'on se dira comme petit gibus, hein, si j'avais su, j'aurais pas venu. Voilà, on ne sait pas. Ce qu'on sait par contre, c'est quelle est l'ampleur de l'effort à faire si on veut limiter le réchauffement à une valeur donnée. Donc on ne sait pas faire correspondre à une valeur du réchauffement une baffe précise à un instant précis, à un endroit précis. On s'est donné des directions générales, qui sont celles que je vous ai données. Hein. D'autres, j'aurais pu vous donner, si j'avais été en Inde, je vous aurais dit, la mousson va s'intensifier. Voilà, j'aurais pu vous dire ça aussi. Hein. Par contre, on s'est relié l'élévation de température à la quantité totale de CO2 qu'on met dans l'atmosphère, parce que ça, la physique nous dit que c'est à peu près linéaire. Donc ici, vous avez une courbe qui vous donne l'élévation de température planétaire en fonction de la quantité totale de CO2 qu'on émet dans l'atmosphère. Alors, à fin 2020, on avait émis à peu près 2300 milliards de tonnes de CO2 et la température est montée d'un peu plus d'un degré, 1,1. Alors, l'accord de Paris vous dit 1,5. D'accord ? Alors, on va jouer à 1,5. 1,5, c'est là. Et donc, si on veut respecter l'accord de Paris, ça veut dire que d'ici à la fin du 21e siècle, on ne peut pas émettre plus de 3000 milliards de tonnes au total, en cumulé, mais dont 2300 ont déjà été émises. Donc ça veut dire qu'il nous en reste 700 à émettre. Donc dans les 80 ans qui viennent, on a collectivement, les humains sur cette planète, 700 milliards de tonnes à émettre, alors que sur les décennies passées, parce que l'essentiel a été craché depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, hein, on en a craché 2300. Alors je vais vous le dire autrement. Ça veut dire qu'un bébé qui naît aujourd'hui, si on respecte l'accord de Paris, son droit à émettre au cours de sa vie, c'est le dixième du droit à émettre de ses grands-parents qui meurent aujourd'hui. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'une personne qui a 80 ans aujourd'hui, en moyenne sur Terre, a émis 10 fois plus que ce que mon bébé qui naît aujourd'hui aura le droit d'émettre au cours de sa vie. C'est ça, l'accord de Paris. Alors maintenant, vous comprenez pourquoi c'est illusoire d'attendre des COP qu'ils aillent régler le problème à notre place. Ils ne le feront pas à notre place. Donc ils vous disent, d'accord, ouais, ok, ils disent ce qu'ils veulent, mais ils ne le feront pas. Nous, enfin, je veux dire, on peut le faire, mais ce n'est pas la COP qui le fera à notre place. Et si on veut limiter le réchauffement à 2 degrés, qui est une valeur que vous avez probablement vu passer aussi, eh bien là, même motif, même punition, on est plutôt aux alentours de 3005. Et là, mon bébé, très bonne nouvelle, au lieu d'avoir le 10e, il a le 6e de ce que quelqu'un qui a 80 ans a émis sur sa vie. Voilà. Même en se limitant à 2 degrés, c'est donc un effort absolument titanesque qui passe notamment par le fait que les émissions sont divisées par 3 au moins entre maintenant et le moment où mes enfants auront mon âge. Dans 30 ans. Alors une division par 3, et après on va commencer à rentrer un peu dans les détails, une division par 3, ça veut dire une baisse de 5% par an, en pratique, hein, c'est ça. Donc si vous regardez ce que ça veut dire de diviser par 3 en 30 ans, ça veut dire qu'en gros, il faut baisser les émissions de 5% par an. Il se trouve que 5% de baisse sur une année, c'est ce qu'on a eu dans le monde l'année 2020. 2020, on a fait 5%. Donc si on veut résoudre le problème du changement climatique, aujourd'hui, on ne cherche pas du tout à faire redémarrer l'économie, on cherche à se prendre un Covid de plus sur la figure. Et puis, non, parce que là, l'économie a redémarré. Et puis, l'économie ne redémarrant toujours pas, restant au même niveau, on s'en reprend un de plus sur la figure l'année d'après, etc. Moins 5% tous les ans par rapport à l'année précédente. Voilà. C'est ça, les 2 degrés de l'accord de Paris. C'est ça. Alors, vous comprenez qu'il va falloir un peu plus que de voter pour un candidat écolo au présidentiel pour y arriver. En gros, ça veut dire quelque part quelque chose qui ressemble à une économie de guerre. Hein ? Ça veut dire qu'on considère que cet effort-là est tellement important qu'on organise la vie de la société autour de ça. Tant qu'on pense que le plus important, c'est d'avoir une machine à laver pour ne pas chercher Darty, vous pouvez oublier ce problème. C'est aussi bête que ça. Hein. Je ne suis pas en train de vous accuser, je suis juste en train de dire le choix tel qu'il se présente à nous, c'est celui-là. Il n'y en a pas d'autre, c'est celui-là. Alors ces fameuses émissions qu'il faut diviser par 3, on va maintenant se pencher un peu plus dessus et regarder où est-ce que les méchantes vaches et les méchantes bêtes à cornes se trouvent. Vous avez ici un camembert qui vous représente les émissions planétaires de gaz à effet de serre. À nouveau, il n'y a pas les intitulés, comme ça, il n'y a pas de spoiler. 20% des émissions planétaires viennent des centrales à charbon. Alors une centrale à charbon, c'est une bouilloire, c'est tout bête, hein, c'est une machine à vapeur. Avec du charbon, on fait de la chaleur, avec la chaleur, on fait de la vapeur, et avec la vapeur, on fait tourner une turbine qui fait tourner un alternateur, comme dans votre voiture, mais il est beaucoup plus gros. Et c'est ça, une centrale électrique à charbon. La moitié de ces centrales sont en Chine. Donc dès que vous achetez un truc made in China, vous achetez un truc made in charbon. La quantité de charbon utilisée indirectement par les Français à travers leurs importations chinoises a considérablement augmenté sur les 20 dernières années. Donc mes chers compatriotes, vous et nous utilisons beaucoup plus de charbon aujourd'hui qu'il y a 20 ans, alors qu'on pense qu'on n'en utilise pas, à cause de made in charbon. 8% des émissions planétaires, c'est les centrales à gaz et beaucoup plus marginalement les centrales à fioul. Donc ce que sont en train de faire en ce moment nos voisins belges qui consistent à fermer du nucléaire pour construire des centrales à gaz, ça va à rebours de ce qui fait baisser les émissions. Bon, ils ont peut-être le droit de le faire pour d'autres raisons, mais en tout cas au niveau des émissions, ça va les faire monter, c'est absolument certain. 4% des émissions planétaires, c'est les cimenteries. Dans les cimenteries, vous avez un processus chimique qui consiste à casser du calcaire en deux morceaux. L'un des deux morceaux sert à faire le ciment et l'autre morceau c'est du CO2 qui part dans l'atmosphère. 12% c'est les autres émissions directes des industries, là-dedans vous avez aussi 4% pour l'acierie et 4% pour la chimie. Donc fabriquer des matériaux de base, du ciment, du plastique, des métaux et notamment de l'acier, c'est ça qui émet l'essentiel de l'industrie, enfin c'est ça l'essentiel des émissions directes de l'industrie. Après transformer l'acier en boulon de 12, c'est beaucoup moins émissif. Ce qui veut dire que tous les objets que nous achetons, l'important, ce n'est pas de bien les jeter, c'est de ne pas les acheter. Si on veut faire des grosses économies d'émissions, l'important, ce n'est pas de bien jeter et de bien recycler, c'est de ne pas acheter. C'est à ce moment-là qu'on évite les émissions. 5%, c'est les chaudières de bâtiments. Vous allez me dire, comment ça, 5%? Les bâtiments, ça crache beaucoup plus de CO2 que ça. On n'arrête pas d'entendre qu'en France, le bâtiment, c'est... Oui, alors ok, parce qu'en France, on n'a pas de centrale à charbon, très bonne idée. On a peu de centrales à gaz, très bonne idée. On a moins d'acierie et de cimenterie parce qu'on a une industrie qui est beaucoup moins forte que dans d'autres pays, notamment parce qu'on a fini de construire nos villes. Et ça bouffe énormément de ciment et d'acier, etc. Donc chez nous, le chauffage, c'est beaucoup plus gros, c'est 20%. Mais dans le monde, par ailleurs, dans le monde, tous les bâtiments ne sont pas chauffés. Hein. Voilà, donc dans le monde, c'est 5%. Les transports, c'est 15%, dans lesquels vous allez trouver à peu près 6% pour les voitures, 4% pour les camions, c'est mondial tout ça, hein. 2% pour les bateaux et 2% pour l'aviation pré-Covid. Non, là c'est 2020, donc 2% pour l'aviation aussi à peu près. Vous voyez que les transports, tout mouillé dans le monde, c'est un gros problème, enfin c'est un gros sujet plus exactement, mais moins que les centrales à charbon. Hein, donc dézinguer les centrales à charbon... C'est au moins aussi important que de s'occuper des voitures. Et alors après, on va arriver à ce que vous attendiez tous, l'agriculture. Alors l'agriculture dans le monde, c'est à peu près 20% des émissions de gaz à effet de serre. C'est essentiellement des gaz qui ne sont pas du CO2. C'était dans le premier graphique que je vous ai montré, là où vous avez vu, il y a du méthane notamment dans les émissions agricoles et du protoxyde d'azote. Donc c'est essentiellement des gaz qui ne sont pas du CO2. Et les gros postes d'émission, c'est... Les émissions de protoxyde d'azote, une fois qu'on a mis des engrais azotés dans les champs, alors les engrais azotés, ça peut être des engrais de synthèse, ou ça peut être du purin, ou ça peut être du lisier, hein, c'est, tout ça, ça contient de l'azote, c'est pour ça que ça pue du reste. Et puis vous avez la fermentation entérique des bovins, si on ne pourrait pas faire de tripes de camp, s'il y a un mode de camp, s'il n'avait pas quatre estomacs, je connais même le nom, et les rizières. Donc ça, c'est les gros postes d'émission. Alors en Europe... L'agriculture, c'est aussi à peu près 20% des émissions. Mais dans le monde, il faut y rajouter un autre compartiment qu'en Europe, on n'a plus, parce qu'on a déjà coupé tout ce qu'il y avait à couper. Hein. La couverture forestière de l'Europe a fortement diminué au deuxième millénaire pour arriver à son minimum en 1850. Hein. Donc nous, on a déforesté massivement. Là, ça s'est arrêté. Mais dans le monde, ce n'est pas le cas. Et donc, il y a 10% des émissions planétaires qui viennent de la déforestation, qui est un déterminant amont de l'agriculture. Ce qui veut dire que si je rajoute la déforestation et les émissions directes de l'agriculture, cette dernière représente un tiers des émissions planétaires de gaz à effet de serre. Ça fait quand même un gros paquet. Et là-dedans, les deux déterminants, donc le premier, vous n'allez pas me sauter dessus, le deuxième, oui, le premier déterminant, c'est la taille de la population. Plus on est nombreux, plus il y a de surface agricole. Et le deuxième déterminant, c'est la part de viande dans la ration alimentaire, parce que plus on mange d'animaux, plus il faut de végétaux pour nourrir les animaux. Donc plus on a besoin de surface. Et enfin, vous avez 7% qui sont des poutres de perlimpinpin diverses. Donc là-dedans, vous avez les fuites de circuits réfrigérants, les frigos, les chaînes du froid dans les industries agroalimentaires, etc. Vous avez les émissions de la gestion des déchets, parce que les décharges, c'est des espèces de gros estomacs de vache, c'est-à-dire que ça fermente aussi. Voilà, vous avez un certain nombre de petits trucs. Alors voilà, choisis ton camp, camarade. Qu'est-ce qu'on divise par trois là-dedans ? On a coutume de se focaliser sur le plus gros déterminant de l'affaire, qui est l'utilisation de l'énergie, c'est-à-dire les émissions de CO2, mais vous voyez qu'il n'y a pas que ça dans les émissions d'origine agricole. Alors je vais quand même faire un petit crochet par l'énergie maintenant, avant de revenir à l'agriculture, puisque c'est quand même à l'origine d'une bonne partie des émissions de gaz à effet de serre. L'énergie est un sujet, quand on le regarde, quelle est sa vie médiatique, qui est très souvent pris par un prisme qui n'est pas celui qui est le plus pertinent pour bien s'occuper du problème. Il y a un premier prisme qui, je suis sûr, préoccupe certains d'entre vous en ce moment dans cette salle, qui est que l'énergie fait penser à une facture. Je ne sais pas s'il y a des gens dans cette salle qui sont chauffés au gaz. Il y a des gens qui sont chauffés au gaz ici ? Oui, vous voyez, la facture augmente. C'est les gens qui sont chauffés à l'électricité. Oui, hein, facture augmente. Les gens qui sont chauffés au fioul, peut-être. Hein, facture augmente. Bon. Donc, c'est une facture. Alors, c'est même de temps en temps tellement une facture qu'on en parle, vous voyez. On parle sur l'électricité, on en parle pour le gaz, on en parle pour l'essence, etc. Alors, en fait, malheureusement, je suis désolé de vous le dire, c'est pas le sujet. Comment ça, c'est pas le sujet? Il ne doit pas payer sa facture. Si, si, je paye comme tout le monde. Mais c'est pas le sujet, vous allez voir. Prenons cette entreprise qui m'a amené jusqu'à vous, depuis mon domicile. La Snosofe. La Snosofe tire des trains. et accessoirement aussi, de temps en temps, des bus et des camions au travers de ces filiales. Mais là, on va s'intéresser aux trains. Pour tirer des trains, la SNOSFE a besoin de gens qui travaillent à la SNOSFE, font tout un tas de métiers très respectables. Et quand vous regardez ce que ces gens coûtent à la SNOSFE, c'est-à-dire les salaires des cheminots, c'est à peu près la moitié de ce que gagne la SNCF. Mais ce n'est pas les voyageurs qui font pédaler les trains, donc, qui pédalent pardon, pour faire avancer les trains. Donc la SNCF a aussi besoin d'acheter de l'électricité et du carburant pour faire avancer ces trains. Du carburant, du reste, j'ai découvert que le train qui venait à Rodez utilise du diesel. Je me suis senti mal, j'ai failli faire demi-tour, hein, je vous préviens. Non, mais il était très plein au début, donc ça va, j'ai la conscience tranquille. Et la SNCF est le premier consommateur d'électricité du pays. Hein, c'est le plus gros acheteur d'électricité de France, consomme 1,5% de la production nationale. Eh bien, l'électricité et le carburant que la SNCF achète lui coûtent 3% de ses revenus. Alors maintenant, imaginons que la SNCF veuille baisser ses charges de 3%. Option 1, elle vire 6% de ses effectifs. Grève monstrueuse, plus de trains à Rodez pendant 2 mois, puis un jour, la grève s'arrête et il y a de nouveau des trains à Rodez. D'accord ? Il y en a peut-être 3% de moins, je ne sais pas, mais enfin, il y a toujours des trains. Option 2, la SNCF dit j'arrête l'électricité et le diesel. Ben, il n'y a plus de SNCF du tout. On est d'accord ? Donc vous voyez bien que la dépendance de cette activité à l'énergie ne se reflète pas par la facture. C'est 3% de ses coûts, c'est 100% de son activité. Et bien, ce que je vais essayer de vous montrer maintenant, c'est que c'est exactement pareil en ce qui concerne l'humanité. On s'en fout de savoir ce qu'on paye l'énergie. C'est 100% de ce que nous sommes. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Alors la deuxième manière dont l'énergie est parfois prise dans le débat médiatique, c'est les économies. Vous connaissez tous ce slogan, la meilleure énergie est celle... On ne consomme pas. Eh bien, vous n'avez rien compris au film. Regardez, on en consomme de plus en plus. Donc vous êtes tous nuls, moi aussi. La meilleure énergie, c'est celle qu'on consomme. Et on va voir ensuite pourquoi. Ici, vous avez la quantité totale d'énergie utilisée par l'humanité depuis un siècle et demi. Alors vous voyez, manifestement, on en consomme de plus en plus. Donc on n'a pas bien écouté les slogans. Et non seulement on en consomme de plus en plus, mais ce que vous voyez, c'est que chaque forme d'énergie est venue s'empiler sur les précédentes, sans aucune substitution à large échelle. Donc le charbon n'a pas remplacé le bois, il est venu par-dessus, et on n'a jamais consommé autant de charbon qu'aujourd'hui. Le pétrole est venu par-dessus le charbon, il n'a pas du tout remplacé. Le gaz est venu par-dessus le pétrole et le charbon, etc. Et tout en haut, là, vous avez les machins qui en ce moment remplissent les colonnes des journaux, c'est-à-dire les nouvelles énergies renouvelables. Donc là, le petit machin mauve, là en haut, c'est l'agrégation du photovoltaïque, de l'éolien, du biogaz, du marais moteur, du houlot moteur, de je sais pas quoi encore, des hydroliennes, enfin bon bref, tout ça, c'est ce truc-là. Là. Et alors la promesse aujourd'hui, c'est que ce truc mauve va remplacer en 30 ans la totalité de tout ça dans un monde dans lequel la quantité d'énergie utilisée double. Voilà, c'est ça la promesse politique aujourd'hui qui s'appelle la croissance verte. Alors ne rigolez pas, c'est comme ça que l'Europe organise ses plans. C'est comme ça que l'Agence internationale de l'énergie publie ses scénarios. C'est comme ça que les économistes raisonnent. Donc je pense que là, vous allez un peu moins rigoler. C'est exactement comme ça qu'en ce moment, le débat s'organise. Voilà. Donc maintenant, je pourrais faire un petit sondage à chaud. Qui y croit ? Alors si vous n'y croyez pas, ça veut dire que moins d'énergie fossile, vous comprenez que ça va être moins d'énergie tout court. Et on va voir que ça veut dire, en fait, très mauvaise nouvelle pour vous et pour moi, moins de pouvoir d'achat tout court. C'est ça que ça veut dire. L'essentiel de l'énergie, c'est des énergies fossiles aujourd'hui. Les énergies fossiles, c'est-à-dire charbon, pétrole et gaz, qu'on appelle comme ça parce que c'est vraiment des fossiles, c'est des restes de vie ancienne. Hein. Le charbon, c'est un reste de fougère qui a poussé à l'ère du charbon, le carbonifère, il y a 300 millions d'années. Et le pétrole et le gaz, c'est des restes de plancton et d'algues qui ont vécu n'importe quand entre il y a 5 millions d'années et il y a 400 millions d'années. Hein, voilà. Donc c'est vraiment des fossiles. Donc, facture, ça se discute. Enfin, c'en est une, mais ce n'est pas le sujet principal. L'économie, manifestement, ce n'est pas ce qu'on a fait. Alors l'autre truc, je vous dis, c'est maintenant, on va être tout renouvelable. Alors, j'ai une très bonne nouvelle pour vous. Tout renouvelable, il n'y a aucun problème pour être tout renouvelable. Okay. Aucun problème. C'est très facile d'être tout renouvelable. Voilà par exemple un exemple de tout renouvelable. Ça, c'est tout renouvelable. En fait, tout renouvelable, c'est le monde dans lequel a vécu l'humanité depuis ses origines jusqu'à il y a 2 siècles. Donc je ne sais pas vous dire si les renouvelables, c'est l'avenir, mais il y a une chose que je sais vous dire, c'est que c'est le passé, de façon absolument certaine. C'est historiquement les énergies dont nous sommes sortis sur les 2 derniers siècles. Alors à nouveau, peut-être qu'on était les derniers des crétins, ou peut-être qu'il y a une très bonne raison à ce qu'on ait fait ça. Il y a aussi de très gros inconvénients à ce qu'on ait fait ça, mais il y avait peut-être de très bonnes raisons. Parce que si vous regardez dans le détail, on avait une marine parfaitement renouvelable. Ce n'est pas vraiment le cas aujourd'hui. On avait des transports terrestres parfaitement renouvelables. Le cheval, il mange de l'herbe renouvelable, après on mange le cheval renouvelable. C'est pour ça qu'il y avait des boucheries chevalines partout, à l'époque des chevaux de trait. Il n'était quand même pas question de laisser partir ça aux asticots. Hein. Non. C'est pas vraiment ça qu'on a aujourd'hui comme mode de transport. On avait une agriculture, donc, parfaitement renouvelable, et aujourd'hui, on n'a pas vraiment une agriculture parfaitement renouvelable. On avait des travaux publics parfaitement renouvelables, ça n'est plus le cas aujourd'hui. On avait une construction parfaitement renouvelable, 2 siècles pour faire Notre-Dame. Aujourd'hui, vous faites des grands cornichons à la Défense en un an. On avait une industrie renouvelable, hein, des moulins à eau qui alimentaient des soufflets de forge en cuir. Tout ça était parfaitement renouvelable. Aujourd'hui, pour remplir Toys R Us, on utilise ça. Et on avait même des séchoirs de récolte parfaitement renouvelables. C'est, en voilà. Et voilà. Alors celui-là, en l'occurrence, il fonctionne au biogaz. J'ai pris une mauvaise photo, mais c'est pas grave. Il fonctionnerait pas au biogaz, ça serait pareil. Et maintenant, on a des séchoirs à luzerne parfaitement fossiles qui fonctionnent au gaz. Donc, dernier petit point, on avait même une aviation parfaitement renouvelable. Donc ici, vous reconnaissez la montgolfière chauffée au bois, renouvelable, faite en papier, renouvelable, etc. Et on a fait des trucs qui n'étaient pas vraiment. Donc en fait, ça fait 2 siècles qu'on passe notre temps à dérenouvelabiliser l'énergie qu'on utilise. Donc est-ce qu'on va pouvoir garder une civilisation industrielle avec la machine à laver pas cher chez Darty avec 100% d'énergie renouvelable? Comme dit l'autre, ça se discute. Je pense qu'avant d'accepter ce slogan et de le prendre pour argent comptant, je vous invite à regarder bien les petites lignes du contrat très très en détail. En fait, la bonne réponse est la réponse D, d'habitude. Et la réponse D, la voici. L'énergie, c'est ça. L'énergie, c'est ça. Alors vous allez me dire, non, ça, c'est pas l'énergie, c'est un héros de film. On le connaît, encore ces héros de film américains qui sont là pour tout casser. Il enfile son armure et paf, il va sauver le monde. Alors non, en fait, c'est vraiment ça l'énergie, parce que l'énergie, en fait, c'est la nourriture de cette armure que nous portons tous. On va dire, non, on ne porte pas une armure, monsieur, il porte une écharpe, madame, elle porte un masque, le reste, elle va sûrement la faire suer. Au fond, je vois un pull en laine, etc. Pas du tout. Si, en fait, on porte tous ce costume sur nous, sauf qu'il n'a pas cette tête-là, il a cette tête-là. Mais il remplit exactement les mêmes fonctions. C'est-à-dire que grâce à cet engin-là, eh bien, mon bras gauche voit sa puissance démultipliée par 10 000. Grâce à cet engin-là, ma cuisse droite voit sa puissance démultipliée par 5 000, etc. Donc en fait, le costume d'Iron Man, c'est la totalité des machines qui fonctionnent grâce à l'énergie que nous leur donnons à manger, car l'énergie, c'est pas vous qui la consommez, en fait. Quand vous payez votre facture d'électricité, c'est pas pour vous brancher la prise dans les narines. Hein. Et en tout cas, si vous faites ça, vous n'allez pas vous mettre à éclairer la pièce ou à laver le linge. Donc, l'énergie, en fait, c'est de la nourriture pour machine. C'est ça, l'énergie. Et donc, utiliser de l'énergie, c'est donner des ordres à des machines. C'est ça que ça veut dire, utiliser de l'énergie. C'est donner des ordres à des machines. Et les machines auxquelles on donne des ordres font notre costume d'Iron Man. Alors, ce costume d'Iron Man, il est vraiment très, très puissant. Alors, je suis désolé de ne pas prendre un parallèle à Véronée, mais imaginons que vous alliez chez vos cousins de Savoie, qui ont aussi des races de vaches de montagne, et que vous alliez faire l'ascension du Mont Blanc dans la journée. On partait de Chamonix le matin, vous arrivez au sommet du Mont Blanc le soir. Vous pouvez bien entraîner. Eh bien, si vous faites ça, vos jambes auront fourni une puissance moyenne dans la journée d'à peu près 100 watts. Ça fait pas bézef, hein. Ça fait quand même pas beaucoup. Maintenant, vous allez prendre un mixeur à soupe. Qu'est-ce que c'est un mixeur à soupe, machin, un truc tout con, hein. Bon. Quand vous appuyez sur le bouton sur l'interrupteur de votre mixeur à soupe, vous avez instantanément quatre alpinistes bien entraînés ou quatre cyclistes bien entraînés qui se mettent à pédaler pour vous. De ceux qui sont capables de faire le Mont Blanc dans la journée, là. Hein, pouf. Passez l'aspirateur, 10 cyclistes se mettent à pédaler pour vous. Appelez l'ascenseur, 50 cyclistes se mettent à pédaler pour vous. Montez dans un engin de travaux publics, alors là, ce n'est pas des cyclistes, c'est des, je sais pas, des bûcherons plutôt. 10 000 bûcherons se mettent à faire travailler leurs bras pour vous, c'est-à-dire que quand l'ouvrier rentre dans la cabine de pilotage d'un engin de travaux publics, il démultiplie la puissance de ses bras par 10 000. Quand Robert, je ne sais pas pourquoi les chauffeurs de camion s'appellent tous Robert, non, c'est parce que mon maraîcher s'appelait Robert et il y avait marqué Robert sur son camion. Monte dans son camion, eh bien, il démultiplie la puissance de ses jambes par 4000. Et quand l'ouvrier de Dunkerque ou de Fos-sur-Mer rentre dans la cabine de pilotage du laminoir, il démultiplie la puissance de ses bras par 10 millions. Pour remplacer les deux laminoirs que nous avons en France, à Dunkerque et à Fos-sur-Mer, par des ouvriers qui martèleraient sur la tôle toute la journée pour écraser la tôle avec la même puissance, il faudrait que je mette au travail la totalité de la population active du secteur privé en France. La totalité du secteur privé devrait marteler sur des tôles toute la journée, juste, y compris les agriculteurs, juste pour remplacer deux laminoirs que nous avons en France. Donc, je sais pas, vous voyez un peu la puissance des machines, et le laminoir, il vous sert tous et toutes là, dans cette salle. Vous êtes assis sur des chaises qui ont des armatures en acier. Vous avez chez vous des objets de cuisine, des fourchettes, des couteaux, des meubles, des bâtiments. Tout ça, ça contient de l'acier. Donc, de même qu'il n'y a pas de vie sans énergie fossile aujourd'hui, enfin, il n'y a pas d'organisation sociale sans énergie fossile, il n'y a pas plus d'organisation sociale sans acier aujourd'hui. Hein. La rambarde qui vous empêchera de vous casser la gueule là-bas est en acier, enfin, porte-manteau, tout, acier partout, d'accord ? Alors, c'est aussi vrai dans l'agriculture. Donc je suis désolé de dire, l'agriculteur qui compte pour peanuts face à ses machines. Voilà, je suis désolé de vous le dire, j'espère que vous accepterez quand même de me payer mon hôtel. Voilà, mais vous, à côté de vos machines, vous n'existez pas. Prends un tracteur. Tracteur, c'est un petit tracteur, pas un céréalier de la Beauce. Alors c'est pas un tout petit tracteur, si vous allez prendre un enjambeur viticole, mais en gros, voilà. Eh bien, c'est des centaines de paires de jambes que le tracteur est capable de remplacer ou des dizaines d'animaux attelés. Hein. En gros, vous divisez par 7 et ça vous donne le nombre de chevaux que ça fait. Donc là, vous voyez, 60 kW, c'est 90 chevaux. Donc c'est comme s'il y avait 90 chevaux attelés, mais c'est pas le même prix. Hein, c'est pas le même prix. Voilà la plus grosse moissonneuse-batteuse du monde. J'ai été la chercher. Alors, je pense pas que vous l'ayez en Aveyron, celle-là. Pas vraiment nécessaire. Mais celle-là, donc 500 kW, elle fait quasiment 700 chevaux attelés. Je ne sais pas si vous voyez 700 chevaux. Je ne sais même pas s'il y a 700 chevaux de trait dans le département. Même pas sûr qu'ils existent. Hein. Alors voilà d'autres petits copains et auxiliaires de l'agriculture qui s'appellent les usines d'engrais et de phytosanitaires. Les engrais de synthèse sont faits avec la chimie de l'ammoniac. Et la chimie de l'ammoniac demande de commencer à produire un gaz qui est hachement à la mode en ce moment et qui s'appelle de l'hydrogène, absolument. 40% de l'hydrogène qui est aujourd'hui produit dans le monde sert à faire de l'ammoniac, et l'ammoniac, c'est le début de la chimie des engrais, c'est avec ça qu'on fait l'urée, etc., et que derrière, on va faire les engrais azotés, les ammonitrates. Ceux qui font boum dans le port de Beyrouth quand on ne les surveille pas. D'autres usines que vous voyez là, c'est un aval du pétrole, c'est de la pétrochimie, c'est les phytosanitaires. Et les trois piliers énergétiques de l'agriculteur moderne s'appellent la mécanisation, les engrais azotés et les phytosanitaires. Et un peu marginalement aussi, d'autres engrais qui arrivent par exemple dans ce genre de bateau, qui sont les phosphates, voilà, et la potasse, pour faire le NPK. Donc, aujourd'hui, l'agriculture moderne bénéficie de ce costume d'Iron Man exactement comme les autres activités. Et c'est la raison pour laquelle la population active a pu descendre jusqu'à 1,5% des actifs français en produisant bien plus qu'à l'époque où ça occupait 60% des Français. Parce qu'on a mis les machines au boulot. Prenons donc la délicieuse assiette du repas ou du petit déjeuner. Elle est environnée de machines. Donc, elle commence par bénéficier de la mécanisation dans les champs, mais elle bénéficie également de l'extraction pétrolière qui permet derrière de faire fonctionner les usines de phytosanitaires et l'extraction gazière qui permet de produire l'hydrogène, parce que l'hydrogène est fait en craquant du méthane. Donc ça, c'est du gaz naturel. Elle bénéficie des mines de phosphate, dont vous avez ici un exemple, encore des machines. Donc tout ça, ça entoure votre assiette du petit déjeuner. Bénéficie de trains pour transporter les céréales ensuite. Bénéficie des usines de transformation, parce que pour faire votre paquet d'une marque que je ne nommerai pas, il a fallu que ça passe dans des usines. De reste, même pour faire du fromage, c'est d'une certaine manière des usines. Ça bénéficie de la fabrication des emballages. Une bonne partie des emballages servent à emballer des aliments. Et puis, il faut des usines pour les fabriquer. Et puis des camions. Et puis des machines de froid. Et puis des machines de chaud. Donc voilà, votre assiette du petit déjeuner, elle baigne dans les machines. D'accord ? Sans machine, aujourd'hui, vous n'avez pas de petit déjeuner. Ni de déjeuner, ni de dîner. Vous vivez peut-être, vous, dans une région dans laquelle, si demain matin, il n'y avait plus de camions, vous continueriez à avoir à manger. Moi, je vis dans une région dans laquelle on meurt de faim s'il n'y a plus de camions. Hein ? L'Île-de-France produit 6% de l'alimentation des Franciliens. Donc, pas de camions, pas à bouffer. La dépendance à l'aval de l'agriculture, et j'y reviendrai à la fin de cette intervention, la dépendance à l'aval de l'agriculture est massive. La dépendance, pardon, de l'agriculture au pétrole à l'aval est absolument massive. Hein ? Alors, cette énergie, elle a fait fondre les effectifs agricoles comme neige au soleil. Et c'est ça qui l'a fait fondre. Vous avez ici les effectifs, la population active en France jusqu'en 1996, ça s'arrête, mais la décrue a continué derrière. Ça, c'était l'époque bénie où il y avait 1 million de personnes dans l'agriculture. Maintenant, je crois qu'on doit être à 600, 500 000, même pas. Pardon ? 500 000 ? C'est ça, voilà. On a déjà en plus perdu la moitié par rapport à la petite partie migration de la fin du XXe siècle. Comment ça se lit, ce graphique ? Vous voyez que en 1800, donc il y a deux siècles, les deux tiers de la population active sont agricoles. Ça veut dire qu'à l'époque, comme manger, c'est le premier besoin des animaux que nous sommes, un agriculteur est suffisamment productif pour se nourrir lui, plus une demi-personne qui fait autre chose. C'est ça que ça veut dire. Donc avec ce qu'il cultive, il arrive à manger lui, plus une demi-personne, ouvrière ou dans les services, et quelques rentiers. Vous voyez que la population active augmente jusqu'en 1850. Alors à cette époque-là, les agriculteurs ne sont pas beaucoup plus productifs en 50 ans. Par contre, la France n'a pas fini de défricher, n'a pas fini de déforester. Les surfaces cultivées augmentent et donc on peut avoir plus de monde dans les champs et plus de monde à nourrir globalement. La population augmente globalement. 1850, minimum forestier. À partir de ce moment-là, les surfaces à cultiver n'augmentent plus. Par contre, l'industrie va commencer à équiper les agriculteurs avec des machines de plus en plus performantes. Des colliers de trait, donc là, les machines sont pas dans les champs, mais par contre, les machines sont dans l'industrie, les forges, etc. Et on va leur donner des socs de charrue de plus en plus performants, des attelages de plus en plus performants, des colliers de trait de plus en plus performants, etc. Le début des moissonneuses-batteuses, c'est 1900, etc. Donc, ils vont avoir des auxiliaires, et donc, ils vont devenir de plus en plus productifs. Et puis, après la guerre, alors là, c'est Iron Man déboule dans les champs, tracteur, phytosanitaire, engrais, le rendement céréalier dans la Beauce a été multiplié par 5 en 30 ans. Donc ça, c'est de l'énergie, de perfusion d'énergie. Que font les autres ? Eh bien, les autres, ils ont de l'énergie aussi. Donc on va pouvoir avoir un parc de machines croissant qui va faire autre chose que de s'occuper de la chaîne agroalimentaire. En particulier, on a des machines qui commencent à exister pour extraire des matériaux dans les mines et transformer ces matériaux derrière. Et à ce moment, on a besoin de plus en plus de gens pour faire fonctionner ces machines. Donc un emploi dans l'industrie, c'est depuis l'origine un emploi de serviteur de machine. Une machine, un emploi. Deux machines, deux emplois. Trois machines, trois emplois. De plus en plus d'énergie, de plus en plus de machines, de plus en plus d'emplois. Très simple. De plus en plus de machines, de plus en plus d'objets produits, de plus en plus d'emplois de services, parce qu'il faut les vendre, il faut les assurer, il faut les entretenir, il faut former les gens pour fabriquer les machines qui vont fabriquer les objets, etc. Tout ça, c'est des emplois de service. Les emplois de service sont la conséquence de l'augmentation des flux industriels permis par l'énergie. Les emplois de service ne se détachent pas des flux industriels sous-jacents. Après les chocs pétroliers, la quantité d'énergie par personne en Occident arrête d'augmenter. En fait, les chocs pétroliers, ça a marqué l'arrêt de la hausse de la quantité d'énergie par personne en Occident. À ce moment-là, on augmente la taille des machines. Si on augmente la taille des machines, on diminue le nombre de machines. Et donc, on va pouvoir, ou plus exactement, si on les augmente vite, on va diminuer la taille, le nombre d'emplois industriels, alors même que la production industrielle continue d'augmenter. Donc, on va produire plus avec beaucoup moins de machines et donc avec beaucoup moins d'emplois. Par contre, comme la production industrielle augmente, le nombre d'emplois de services augmente. Il y a de plus en plus de jouets à vendre, de plus en plus d'employés de la distribution, de plus en plus d'employés dans la banque pour faire des crédits pour acheter les jouets, etc. Plus en plus de gens partout dans les services, de plus en plus de gens pour former parce que le monde est de plus en plus compliqué, etc. Donc le nombre de gens dans les services augmente alors même que le nombre d'employés dans l'industrie baisse. Et enfin, après les chocs pétroliers, un emploi est devenu tellement productif parce qu'on a tellement de machines par personne que le ralentissement sur l'énergie fait qu'on ne peut plus donner un emploi par personne. Et donc, à partir des chocs pétroliers, pour maintenir l'activité, il aurait fallu commencer à ralentir la hausse de la productivité, voire l'inverser. Aujourd'hui, on est rentré dans un monde où si on veut donner un job à tout le monde, sans s'endetter, il faut diminuer la productivité du travail et pas l'augmenter. C'est perturbant parce que ça veut dire aussi diminuer les revenus. Hein. Donc c'est pas 35 heures payées 40, c'est 35 heures payées 35. C'est ça que ça voulait dire. Au moment où les socialistes ont fait les 35 heures, s'ils avaient voulu vraiment répondre au problème, c'était ça qu'il fallait qu'ils fassent. C'était pas 35 heures payées 40, c'était 35 heures payées 35. C'était ça le vrai partage d'un travail qui ne pouvait plus augmenter à ce moment-là pour des raisons énergétiques. Pas du tout pour des raisons autres, pour des raisons énergétiques. Alors ce que je vous ai expliqué là pour la France, on le constate partout dans le monde. Ici, vous avez par exemple un graphique où j'ai mis pour chaque point bleu est un pays dans le monde, et pour le point bleu et pour le pays en question, j'ai mis à la fois la part de la population active qui travaille dans l'agriculture là et la quantité d'énergie par personne dans le pays. Ça, c'est l'axe horizontal. Et ce que vous voyez, c'est que si on prend une photo du monde aujourd'hui, plus un pays a d'énergie par personne, moins il a de gens dans l'agriculture. Donc, dès que l'approvisionnement énergétique augmente dans un pays, la quantité d'agriculteurs baisse. Et les gens vont se mettre dans les villes, où ils font de l'industrie puis des services. Donc là, je suis en train de vous dire qu'une civilisation très urbaine est une civilisation très énergivore. Et dans un monde à l'énergie rare, ça ne pourra pas rester comme ça. On va devoir faire dégonfler les villes. Ah ! Oh ! Comment on fait ? Sans y réfléchir, on ne fait pas, ça c'est sûr. Et si on ne fait pas, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, les villes vont progressivement connaître des problèmes économiques croissants. À commencer par les banlieues. Ça s'explique de manière énergétique. Pas le temps ce soir. Voilà comment la France s'est transformée sous le coup de l'approvisionnement énergétique en quelques décennies. Les campagnes se sont vidées, les villes ont grossi, et comme par ailleurs tout le monde avait une voiture, les villes se sont grossies, ont grossi en s'étalant. Partout pareil. Quel que soit le pouvoir politique en place, ça s'est passé exactement de la même manière en Grande-Bretagne, en France, en Allemagne, ici et là. Les endroits où les villes ne se sont pas étalées, c'est parce que la géographie ne le permettait pas. Donc si vous allez voir les villes suisses à fond de vallée, s'étaler sur les coteaux, c'est quand même compliqué. Donc les villes se sont peu étalées. Hein. Mais dès que vous étiez dans des pays de plaine, ce qui est le cas pour l'essentiel de la France, on a produit plus d'aliments et on les a produits pour moins cher. Ici, vous avez, alors ça, je pense que ça va vous intéresser, l'évolution du budget alimentaire. Alors, j'ai pris les Américains parce qu'en France, on est infoutu de trouver des séries longues en deux clics de souris. Mais c'est exactement la même chose en France. Hein. Le budget alimentaire des Américains sur quasiment un siècle. Ce que vous voyez, c'est qu'il y a un siècle, les Américains dépensent un quart de ce qu'ils gagnent pour manger. Et là-dedans, l'essentiel, c'est ce qu'on appelle au domicile. Donc, en fait, c'est des achats pour vous faire la cuisine vous-même. Alors, je suis désolé des propos sexistes qui vont suivre, mais c'est quoi la façon de procéder du ménage américain il y a un siècle ? Eh bien, c'est Madame Smith qui va au marché ou voir le paysan du coin pour acheter des produits bruts qu'elle rentre cuisiner chez elle pour Monsieur Smith qui est au champ ou à l'usine. Donc, l'essentiel des achats alimentaires à l'époque paye effectivement de la nourriture en direct. Qu'est-ce que c'est que les achats alimentaires aujourd'hui ? C'est le ticket de caisse du magasin. Mais quand vous allez chez Carouf pour acheter de la nourriture, qu'est-ce qui revient aux gens qui sont au premier rang là ? Ça. Vous allez payer le magasinier de chez Carouf, la caissière de chez Carouf, vous allez payer des transports, vous allez payer des emballages, vous allez payer la campagne de pub de Carouf, vous allez payer les actionnaires de Carouf et leurs experts comptables. Vous allez payer en gros tout sauf de la bouffe. J'ai fait le calcul sur une boîte d'œufs. tout con, hein, une boîte de poules en batterie, que j'achète jamais, mais c'est quand même comme ça que je vais faire le calcul. Départ producteur, en Bretagne, l'offre vaut 6 centimes. Donc une boîte d'œufs de 6 œufs, 36 centimes, que vous allez payer 1,50€ au magasin. D'accord ? Donc vous allez payer au magasin, en gros, entre un quart et un cinquième de votre ticket de caisse, c'est effectivement l'achat de la nourriture. Le reste paye plein d'autres trucs. Si vous achetez un paquet de pâtes, c'est exactement pareil. Quand vous regardez le blé et l'eau qui servent à faire les pâtes, c'est juste un tout petit morceau du paquet de pâtes que vous achetez. Donc, en fait, à l'époque, on achetait des produits bruts et on faisait la cuisine soi-même. En fait, ce qu'on appelle faire la cuisine aujourd'hui, c'est déjà acheter des produits de l'industrie agroalimentaire. Hein ? Des trucs en conserve, des trucs surgelés, des trucs séchés, des trucs machins, emballés. Et donc, les produits bruts, ils valent un quart de votre ticket de caisse, en gros. Et quand vous êtes hors domicile, c'est encore pire, puisque l'omelette que je paye 5€ dans un bistrot parisien qui contient 3 œufs contient 18 centimes d'œufs. Donc là, j'achète tout sauf de la bouffe, vraiment. Donc si je regarde le vrai facteur diviseur sur l'alimentation elle-même, hein, c'est-à-dire que si on revenait aujourd'hui au système d'il y a un siècle où on se contentait tous d'acheter des fruits et légumes et de la viande aux producteurs du coin qu'on cuisine chez nous, ce qui n'est pas possible dans le système urbain actuel, hein, mais c'est juste pour... Hein, eh bien en fait, on se rendrait compte que le prix des aliments a été divisé par 10 à 20. Donc la bouffe, elle est pas chère, elle vaut rien en ce moment. Rien du tout. Rien. C'est transitoire. Ça va remonter. Je peux vous le dire. Et ça ne va pas remonter parce que les politiques sont des abrutis. Ça va remonter à cause de la physique. Ça va remonter à cause de la physique. Et dans le même temps, on consomme 5 fois plus de viande. Donc le prix réel de la viande, c'est-à-dire le prix d'un kilo de bœuf exprimé en minutes de temps de travail, hein, lui, il a plutôt été divisé par 50 à 100. C'est ça, l'ordre de grandeur. Je vais revenir maintenant à un effet macroscopique, donc à mon costume d'Iron Man. Vous avez compris que c'est lui qui a totalement transformé le monde. Et en fait, si j'essaye de comprendre combien il a transformé le monde, avec les petits multiples que je vous ai montrés tout à l'heure, là, un tractopelle, 10 000 bras, etc., un petit calcul d'ordre de grandeur vous montre que ces machines et leur nourriture spéciale qui s'appelle l'énergie démultiplie aujourd'hui la force musculaire de l'humanité par un facteur 200. Si nous n'avions pas d'énergie sur Terre, donc pas de pétrole, pas de gaz, pas de charbon et marginalement pas d'eau, pas d'uranium, etc., eh bien la force productive de l'humanité serait divisée par un facteur 200. L'autre manière de dire ça, c'est que le PIB serait divisé par un facteur 200. Dans le monde. Le PIB par personne serait divisé par un facteur 50 à 100. Votre pouvoir d'achat, quoi, il serait divisé par un facteur 50 à 100. Voilà. Donc ce qui a fait votre pouvoir d'achat et le mien, ça s'appelle le pétrole, le gaz, le charbon. Voilà, c'est ça qui a fait votre pouvoir d'achat et le mien. Et ça se retrouve sur cette courbe qui vous donne le PIB mondial sur l'axe vertical en fonction de la quantité d'énergie, c'est-à-dire le parc de machines que nous avons en service dans le monde. Vous voyez, c'est tout droit. Plus il y a d'énergie utilisée dans le monde, plus on utilise de machines, plus on produit, et plus le PIB est important. Et comme l'essentiel de l'énergie est fossile, bah on a la même chose sur le PIB et le CO2. Donc là, vous comprenez pourquoi la COP26 recycle la COP25, qui recycle la COP24, qui etc. Ça veut dire que baisser pour de vrai les émissions de gaz à effet de serre, c'est baisser pour de vrai le PIB. Ah. Voilà, c'est ça le vrai sujet. Et je vous dis ça parce que je suis un grand partisan de la décroissance. De toute façon, vous allez voir qu'on y est déjà dans la décroissance en Europe, donc le problème est réglé. Mais il est en train de se régler. Mais c'est exactement ça que ça veut dire. Alors c'est ce que, dans termes plus policés, on appelle la sobriété. Mais c'est exactement ça. Donc aujourd'hui, on est à la croisée des chemins. Et la question qu'on doit se poser, c'est est-ce que tant que la fête dure, on y va et tant pis pour la gueule de bois ou bien est-ce qu'on se dit non, on veut durer, pas que la fête, mais on veut que nous, ça dure. Et à ce moment, il va falloir commencer à discuter de là où on se met gentiment au régime. Mais c'est ça l'équation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Alors vous comprenez que c'est très difficile au monde politique. D'abord, c'est très difficile au monde politique d'écouter 1h30 comme vous êtes en train de le faire sagement. Bientôt, je vais m'arrêter. Et ensuite, c'est très difficile au monde politique d'arriver à gérer ce problème en tenant compte de nos contradictions qui, je suis sûr, pour une partie des gens dans cette salle, n'était pas consciente au moment où vous êtes rentré. Mais on est en plein dans des contradictions, les nôtres propres. Donc l'âge d'or que nous sommes en train de vivre, il a une origine, les combustibles fossiles, qui sont aussi gratuits que le vent. Hein. Le vent est gratuit, mais la formation du pétrole est gratuite. Hein. Personne n'a payé quoi que ce soit dans cette salle pour que le pétrole se forme. Hein. Donc toutes les ressources naturelles sont gratuites, quelles qu'elles soient. Le minerai de cuivre est gratuit aussi. Donc les combustibles fossiles, ça brûle, c'est pour ça que c'est des combustibles. Ça permet de faire tourner des machines qui permettent de transformer tout le reste. Qui nous ont donné tous les objets que nous connaissons, qui nous ont donné toute la structure sociale que nous connaissons. Comme les machines bossent pour nous, nous, on a plein de temps libre, donc on peut faire des conférences et écouter des conférences, mais ce n'est pas vraiment du travail. D'accord ? Le travail, c'est traire des vaches. Écouter des conférences, bon. Ou faire des conférences. Donc, on a plein de temps libre, donc on a des vacances, on commence à travailler tard, on arrête de travailler avant d'être mort, on ne travaille pas le week-end. Tout ça, c'est les machines qui l'ont permis. Tout ça, c'est les machines. Le MEDEF et la CGT ne peuvent pas satisfaire leurs revendications sans machines. La FNSEA, pas plus. Pas de machines, pas de revendications. Et au milieu de tout ça, on a donc un truc qu'on mesure qui s'appelle le PIB. On dit, tant que ça augmente, c'est que tout va bien. Alors, il y a plein de limites planétaires à cette affaire, parce que la planète est finie. Il y en a au moins deux. Donc, une dont je vous ai parlé en long, en large et en travers, donc je n'y reviendrai pas. Et une deuxième, qui est l'énergie, puisque l'énergie fossile, il faut des dizaines ou des centaines de millions d'années pour qu'elle se forme, donc elle n'est pas vraiment renouvelable. Enfin, elle est renouvelable si vous avez le temps d'attendre 50 millions d'années, mais sinon, pas vraiment. Les énergies fossiles, donc pétrole, gaz, charbon. La plus importante d'entre elles aujourd'hui, dans l'approvisionnement mondial, c'est le pétrole. Petite question, je vais faire un petit quiz. À votre avis, ici, qui pense que du pétrole, pourvu qu'on en veuille, il y en a encore pour très longtemps? Qui pense que même si on ne veut pas, on va dès à présent en avoir de moins en moins? Bon, il y en a beaucoup qui ne pensent plus. Trop tard. J'avais essayé d'expliquer à ma fille aînée, quand elle avait 3 ans, ce que c'était que la mort. Et je lui avais dit, quand on est mort, on pense plus. Voilà. Et alors, je l'avais retrouvée devant un frigo, devant un poulet. Enfin, en l'occurrence, c'était une oie, parce que c'était Noël. Et elle ouvre elle voit le bestiau. Puis elle se dit à elle-même, j'étais dans la pièce à côté, puis j'entends se dire à elle-même, ce poulet est mort, il ne pense plus. Je dis, voilà. Donc, vous faites les poulets. Voilà. Pensez plus. Eh bien, c'est les deuxièmes qui ont raison. Vous avez ici un document qui a été édité par l'Agence internationale de l'énergie en 2018 et qui dit, en ce qui concerne le pétrole, si je ne regarde pas ce qu'on appelle le pétrole de schiste aux États-Unis et les sables bitumineux au Canada, la production mondiale de pétrole est passée par un maximum historique en 2008 et a commencé à décliner depuis. Alors ce qui fait que l'ensemble du pétrole n'a pas décliné, je vais vous montrer juste après, c'est le pétrole de schiste et les sables bitumineux. Mais sur le pétrole ordinaire, ça a commencé à baisser depuis 2008. Alors à cela s'est rajouté le pétrole de schiste et le pétrole, les sables bitumineux, et l'ensemble pourrait continuer à croître dans le meilleur des cas, au chiffre project, nous on pense que ça ne sera pas ça, d'ici à 2030. Mais ce que vous dit ce graphique, c'est un truc un tout petit peu subtil, c'est pour faire sortir du pétrole, il faut utiliser de l'énergie, puisqu'il faut pomper. Et plus les gisements se vident, plus il faut pomper avec vigueur pour faire sortir ce qui reste. Donc ce qui va vraiment compter, c'est pas le pétrole brut qui sort, c'est le net une fois que vous avez déduit ce qui vous était utile pour pomper. Et là, vous avez cette information sur le graphique. Si vous enlevez l'énergie de pompage, on va dire, l'énergie d'extraction du pétrole, c'est-à-dire cette partie moutarde, eh bien, au mieux, ce qui pourrait rester pour alimenter nos machines, c'est ce que vous avez ici. Et là-dedans, vous n'avez même pas les pertes au raffinage. Donc, vous voyez qu'il n'est pas exclu que si on regarde en net, eh bien, le pic soit effectivement passé. Au mieux, on pourrait, après le Covid, remonter à quelque chose qui n'est pas loin du pic pendant encore 5 à 10 ans, ce qui serait déjà trop pour le climat. Mais là, je vous parle de la géologie. Et puis derrière, ça baisse de toute façon. Au Shift Project, on a demandé à 2 anciens dirigeants de Total qui étaient du côté de l'exploration-production, donc les gens qui cherchent le pétrole et qui le font sortir, hein, et qui étaient très haut placés dans la hiérarchie, puisque l'un des deux était en gros le numéro 2 et l'autre pas très loin du numéro 3. On leur a donné une base de données qu'on a eue pour un prix d'ami de l'ensemble des gisements de pétrole dans le monde, truc qui normalement vaut quelques millions de dollars et que les pétroliers achètent pour voir ce que font leurs petits copains. que nous, on n'a évidemment pas eu pour ce prix-là, au Shift Project. Donc, on a demandé à ces anciens dirigeants de Total de regarder cette base de données et de nous donner leur pronostic sur la quantité de pétrole qui pourrait sortir des 16 premiers fournisseurs de l'Europe, qui se trouvent aussi être les 16 premiers producteurs mondiaux, sauf le Canada et le Brésil. Si vous rajoutez le Canada et le Brésil, vous avez tous les pays producteurs importants dans la liste. Eh bien, vous voyez que leur pronostic, c'est que la production, y compris le Shell Oil, qui est tout en haut là, la production ne reviendra pas à son niveau pré-Covid, et dans 5 à 10 ans, elle se met à piquer très sévèrement du nez. Alors ça, c'est la production des pays qui exportent vers l'Europe, mais ils ont une population domestique. Ils ont leurs propres automobilistes, ils ont leurs propres gilets jaunes, ces gens-là, qui disent, ben, pétrole, il va rester chez nous. Bon. Ce qui veut dire que la quantité qui pourrait arriver en Europe en provenance de ces exportateurs, elle ne va pas être divisée par deux, elle va plutôt être divisée par quatre, si ce n'est par cinq ou six. Donc sur le pétrole, la décrue, elle a commencé, qu'on le veuille ou pas, et donc de toute façon, qu'on le veuille ou pas, il va falloir organiser la sortie du pétrole très rapidement. De toute façon, qu'on le veuille ou pas. Donc il va falloir de toute façon, qu'on le veuille ou pas, pour ceux d'entre nous qui sont chauffés au fioul, plus chauffés au fioul, et pour ceux d'entre nous qui utilisent une voiture à pétrole, faire autre chose qu'une voiture à pétrole. Hein ? De toute façon. Ça va être une mesure de sauvegarde, même si on se contrefout du climat. Même si on se contrefout du climat. Voilà, et je vais m'arrêter là. J'avais encore trois trucs sur l'agriculture, mais ça ferait un peu long. Donc je m'arrête là. Voilà, hop. Et donc maintenant, comme mon train est demain matin, ben, tant que vous êtes réveillés, allons-y pour les questions.
Ben, merci beaucoup. Je sais pas si tout le monde est comme moi, mais c'est vrai qu'on est un peu, je sais pas, entre sous le choc, un peu, voilà, beaucoup d'infos, mais c'était vraiment passionnant. Ben, je vous invite à poser des questions si vous en avez. Alors, j'imagine qu'il y en a, mais on va essayer de faire au mieux. Donc, voilà. Pardon ? Ouais, non, moi j'avais préparé une question, mais on va d'abord faire celle de la salle, puis on y reviendra après.
Il y en a une en haut là-bas, là.
Allez, je viens.
Alors, merci pour la présentation. Pour commencer, moi, ma question porte sur les émissions de méthane liées au cheptel bovin. Alors j'ai essayé de prendre quelques chiffres avant de venir, j'espère qu'ils sont bons. À peu près en France, j'ai vu qu'on avait quelque chose comme 18 millions de têtes bovines qui émettaient à peu près 1,6 mégatonnes de méthane par an. Et du coup, pour nourrir...
J'ai été interrompu pour une raison de micro. Donc
D'accord. Du coup, je disais que de ce que j'avais trouvé, le cheptel bovin français émettait à peu près par an 1,6 mégatonnes de méthane, quelque chose dans ces ordres de grandeur-là. Et du coup, pour nourrir tout ce bétail-là, j'ai trouvé aussi qu'on faisait à peu près 1,5 million d'hectares de maïs fourrage, qui, on nous dit, qui peut capter du CO2 de l'atmosphère jusqu'à 20 tonnes par hectare et par an, enfin, par cycle de culture. Donc si on fait en première approche le calcul, on va dire on trouve que le cheptel bovin il émet 1,6 mégatonnes de méthane par an, mais en même temps, il mange des végétaux qui ont capté 30 mégatonnes de CO2 par an. Donc bon, j'imagine que le raisonnement n'est pas le bon, sinon les vaches ne seraient pas l'ennemi public numéro un des émissions de méthane. Donc voilà, j'aimerais avoir un petit peu des explications par rapport à ce phénomène-là.
D'accord. Alors la première partie de la réponse, c'est que le méthane est un gaz à effet de serre plus puissant que le CO2. C'est-à-dire qu'il a une capacité à absorber les infrarouges terrestres qui est plus élevée que celle du CO2. Par contre, il a une durée de vie qui est plus courte que celle du CO2 parce que c'est le seul gaz à effet de serre de ceux qu'on émet qui a un processus d'épuration dans l'atmosphère. Donc, il n'est pas très rapide ce processus, mais il existe quand même. Au total, on considère que émettre 1 kg de méthane, c'est à peu près comme émettre 28 kg de CO2. Ensuite, quand on cultive des végétaux pour donner à manger aux animaux, les animaux, ils respirent. Et cette respiration restitue sous forme de CO2 l'essentiel, tout le carbone, en gros tout le carbone qui rentre, il va ressortir. Donc il va le carbone qui rentre dans la bête, il va devenir quoi? Une bonne partie va devenir le CO2 qu'elle exhale, sa respiration. Petite partie, le CO2 qu'elle pisse et qu'elle chie, pardonnez-moi. Et enfin, une petite partie contribue à son accroissement de masse, qu'ensuite nous allons manger, et ça va ressortir exactement de la même manière chez nous, donc je vous fais grâce, par la respiration et par le reste. Voilà. Donc l'ensemble du carbone qui aura été capté par la photosynthèse ressort sous forme de CO2, sauf une petite partie qui ressort sous forme de méthane. Mais comme le méthane est un gaz à effet de serre beaucoup plus puissant que le CO2, au total, l'équation est défavorable pour le cheptel bovin.
D'accord. Même si on considère que les effluents d'élevage, on les remet, entre guillemets, à la terre. On les repose sur nos pâtures. Est-ce qu'on considère que ça, le CO2 qui est dedans retourne au sol ou il y en a quand même une petite partie qui s'évapore
Tant que vous êtes avec une pratique agricole qui est constante, le contenu en carbone de votre sol est constant. Si vous voulez enrichir, et en fait c'est une des marges de manœuvre qu'il faut développer dans l'agriculture, le sol en carbone, les marges de manœuvre s'appellent y mettre des racines et arrêter d'oxyder le carbone du sol. Alors y mettre des racines, c'est l'agroforesterie. Alors dans les régions de bocage, en général, c'est pas trop compliqué de convaincre les gens qu'il faut mettre des haies. Ça devient plus compliqué dans les régions de culture. Donc aller mettre des haies dans la Beauce, c'est plus compliqué, mais c'est là où on devrait en mettre en priorité. Et ensuite, la deuxième chose qu'il faut faire, c'est labourer le moins possible, parce que plus vous labourez, plus vous exposez à l'oxygène de l'air les molécules organiques du sol, et donc vous les minéralisez, vous oxydez le carbone du sol, l'humus. En plus, vous dérangez les vers de terre, et donc ça contribue à ce que les sols émettent du carbone. Donc les pratiques d'agriculture sans labour, pour ça qu'on plaisantait tout à l'heure sur le glyphosate, qui de mon point de vue, j'ose le dire, n'était probablement pas le premier phytosanitaire à interdire, les pratiques sans labour et les haies sont une très bonne manière de remettre du carbone dans les sols agricoles. Alors je ne crois pas que qui que ce soit ait fait le calcul, mais il serait intéressant à faire, de voir ce que ça donne si vous passez des bovins de maïs à pâturage. Mais je ne crois pas que la question se pose tellement, parce que je ne crois pas qu'il reste de l'espace. Donc ça veut dire qu'il faudrait transformer la culture de maïs en pâturage. Et à ce moment, donc vous auriez moins de bovins. Mais par contre, effectivement, transitoirement, il faudrait faire le calcul de ce que ça veut dire. Parce que si vous transformez la culture en pâturage et que vous ne labourez pas votre pâturage, là, vous allez remettre du carbone dans le sol. C'est très clair. Et donc il y a quelque chose à regarder. Mais je n'ai pas fait le calcul.
Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Pendant que la deuxième question arrive, je peux vous montrer un truc que j'avais l'intention de vous montrer, puis finalement je ne voulais pas montrer. C'est la part de chaque composant dans les émissions de gaz à effet de serre dans l'élevage. Donc là, vous voyez tout à fait, les deux ronds de gauche, les deux anneaux de gauche, c'est les bovins. Et vous voyez que le premier déterminant aux émissions de l'élevage, dans le cas des bovins, c'est la fermentation entérique. Donc c'est le méthane qui vient de la panse, de la caillette, du bonnet, etc. Ensuite, vous avez les déjections. Donc ça, c'est la gestion des effluents. Vous voyez que l'alimentation, les cultures amont, ce n'est pas un sujet majeur. Et puis, en ce qui concerne les laitiers, vous avez quand même un peu de fertilisation des pâturages que vous voyez donc dans les intrants. Quand vous êtes sur les porcins et les volailles, c'est essentiellement l'alimentation qui est à l'origine des émissions. C'est-à-dire, c'est les cultures amont. C'est les émissions des cultures amont qui sont essentiellement à l'origine des émissions. Donc la structure n'est pas du tout la même.
Moi j'ai une question, vous parlez d'agroforesterie. Est-ce que si tous les agriculteurs français se mettent à l'agroforesterie demain, la part de carbone va réduire de quel pourcentage ? Est-ce que ça a été calculé ou pas du tout?
Ce qu'il y a aujourd'hui en France, il y a un truc qui s'appelle la stratégie nationale bas carbone. Et dans le cadre de cette stratégie nationale bas carbone, je vous avoue, alors il y a les marges de manœuvre qui sont mentionnées sont les suivantes. Il y a effectivement l'augmentation de carbone dans les sols agricoles. Dans l'agroforesterie, il peut y avoir également un composant qui n'est pas majeur, mais qui n'est pas inintéressant, qui est le... le bois de taillis pour remplacer le fioul dans le chauffage. Voilà, c'est pas énorme compte tenu du gens que ça concerne, mais enfin c'est toujours ça de prix. Et puis vous avez évidemment la séquestration de carbone dans le sol, parce que quand vous commencez à mettre des arbres, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a les racines, et les racines c'est du carbone dans le sol, hein. Donc ça, vous avez ça. Pour vous fixer les ordres de grandeur, aujourd'hui les émissions directes de la France de gaz à effet de serre, j'ai plus les derniers chiffres en tête, mais c'est de l'ordre de 400 millions de tonnes équivalent CO2. L'empreinte carbone de la France, donc y compris les émissions qu'on importe, parce qu'on importe nos téléviseurs, que vous importez du soja, etc. Voilà. À ce moment, c'est plus proche de 650 millions de tonnes. Et aujourd'hui, le puits forestier, il est de quelques dizaines de millions de tonnes. Donc si on augmente le puits, notamment avec des mesures d'agroforesterie, l'ordre de grandeur qu'il y a dans la stratégie nationale bas carbone, c'est aussi quelques dizaines de millions de tonnes. Donc vous voyez qu'à l'échelle du pays, ce n'est pas ça qui sert à régler le problème, mais ce n'est pas complètement marginal et c'est toujours bon à prendre.
Attends, je remonte.
Dans agroforesterie, il y a foresterie, donc il y a aussi un point important, qui est aussi un point du monde rural, qui est la forêt. Aujourd'hui, la forêt est un de nos drames nationaux. On a le deuxième massif forestier d'Europe et les meubles, c'est un des principaux postes de déficit de la balance commerciale. On exporte des grumes pour importer du parquet et des meubles. Enfin, on a un vrai sujet avec la forêt aussi. Et dans la stratégie nationale bas carbone, un autre point important de puits de carbone, c'est d'augmenter les objets en bois. Donc au lieu de faire la rampe en métal, là vous la faites en bois, et du coup, tant que la rampe elle est sur pied et qu'on la crame pas, et ben ça fait un stock de carbone qui est plus dans l'atmosphère.
Moi c'est une autre question sur l'élevage. Je vois que là il y a une part importante, c'est gestion des effluents. Logiquement dans un élevage extensif où les vaches pâturent, le fumier reste sur les prairies, il y en a une partie qui part en protoxyde d'azote, qui est un gaz encore plus réchauffant que le CO2, par rapport à un élevage en bâtiment où on peut le stocker, capturer le méthane, etc. Est-ce qu'on a des chiffres sur la contribution, les émissions de carbone en fonction du type d'élevage, plus ou moins
Non, c'est une des difficultés. Alors j'en parlais justement avant le début de la conférence. Quand un agriculteur veut faire son bilan carbone à lui, une des difficultés, c'est que dans le vivant, les émissions de gaz à effet de serre sont beaucoup plus fluctuantes et variables que dans l'inanimé. Quand vous avez une voiture, vous savez exactement combien elle va émettre en fonction de la quantité d'essence qu'elle consomme, et vous savez que entre l'horrible SUV que je hais de toutes mes forces et la toute petite voiture, il y a un facteur 3, mais il n'y a pas un facteur 50. Alors que en ce qui concerne les émissions d'origine agricole, vous pouvez avoir, alors 50 peut-être pas, mais vous pouvez avoir un facteur 10 très facilement sur un certain nombre de processus en fonction de la température, de la pédophage du sol, voilà. Donc c'est très compliqué. Et du coup, comme c'est très compliqué d'avoir l'inventaire de départ, parce que ça dépend énormément des conditions, c'est plus difficile d'identifier les marges de manœuvre, puisque si vous ne savez pas exactement d'où vous partez, c'est plus difficile de savoir dans quelle direction il faut partir. Alors, il y a des trucs, vous êtes sûr de votre coût. Par exemple, si vous diminuez, si vous diminuez la taille du troupeau, toutes choses égales par ailleurs, vous êtes absolument certain de diminuer les émissions. Mais si vous voulez optimiser techniquement, c'est compliqué parce qu'en fait, la seule vraie manière de savoir, c'est d'instrumenter partout, hein. C'est la seule manière. Une des manières de diminuer les émissions des effluents, c'est de les méthaniser. Donc ça, c'est quelque chose. Là, vous êtes sûr d'aller dans la bonne direction, c'est clair. Maintenant, le pouvoir méthanogène des effluents, il n'est pas très élevé. Et donc, très souvent, l'équation économique des méthaniseurs fait que pour que ça marche, vous êtes obligé d'y rajouter des cultures dédiées. Et là, ça devient plus discutable, on va dire.
Est-ce qu'on peut estimer qu'en fait, le fait que produire de la viande dans les décennies futures va être de plus en plus compliqué avec le changement climatique, le problème de consommation de viande qu'on fait actuellement, qui est trop important, le problème va se résoudre tout seul? Est-ce qu'on peut dire que c'est une bonne nouvelle, en gros?
Moi, je préférerais qu'il se résolve de manière organisée. Vous avez vu qu'on a plusieurs problèmes sur les bras qu'on doit résoudre en même temps. Le premier problème, c'est que dans un monde sobre en énergie, la taille de la population urbaine est excessive. Une fois que je vous ai dit ça, ça veut dire qu'il va bien falloir qu'on trouve à occuper des gens dans les campagnes. Oui, c'est logique. Qu'est-ce qu'il y a comme ressources dans les campagnes? Aujourd'hui, il n'y a plus de mines, il n'y a plus beaucoup. Il y a la terre, il y a la forêt, il y a le soleil. Il y a un certain nombre de trucs. Donc ça veut dire qu'il va falloir trouver des activités autour de tout ça. Dans le même temps, il y a effectivement aujourd'hui trop de vaches en France si on veut fortement baisser les émissions de gaz à effet de serre. Donc la quadrature du cercle consiste à faire bosser plus de gens avec moins de vaches. C'est exactement ça que ça veut dire. Et l'une des contreparties, c'est pour ça que je l'ai dit tout à l'heure, le prix de la nourriture va remonter. C'est obligé. Le prix de la nourriture va finir par remonter. Aujourd'hui, on paye une nourriture qui n'est peut-être pas mondialisée dans son lieu de production, mais qui est mondialisée dans sa chaîne de valeur. Encore une fois, les phosphates, ils sont au Maroc. Le début de la chaîne des engrais, c'est les gisements de gaz iraniens. Et les emballages qui permettent d'aller mettre la viande dans le supermarché, c'est une plateforme pétrolière qui se trouve je ne sais pas où. Donc la chaîne de valeur de l'agriculture est totalement mondialisée, même pour les élevages qui sont locaux. C'est ça la quadrature du cercle, c'est qu'il va falloir remettre plus de valeur dans des exploitations avec moins de bêtes. Ça ne passera pas sans un mécanisme collectif qui fasse monter les prix au kilo de la production primaire. C'est obligé. Voilà. Donc, et un point qui est convergent avec ça, c'est que vous ne pouvez pas demander à un secteur qui n'a pas d'argent d'innover. Donc si on veut que l'agriculture innove, c'est-à-dire fasse des choses différentes de ce qu'elle fait aujourd'hui, et bouge vite, ça, c'est aussi convergent avec le fait que ça doit recevoir plus d'argent. Tout ça va. L'énergie abondante a fait perdre les agriculteurs et gagner tous les gens qui sont à l'aval, c'est-à-dire les transformateurs, les distributeurs et les actionnaires de tout ce beau monde. La sobriété énergétique devrait et doit, et il faut l'organiser comme ça, parce que sinon ça va se faire par craquement, produire quelque part le mécanisme inverse.
Alors, juste petite information, il y a autant de personnes dans la salle que de personnes qui nous suivent en direct sur le live sur nos réseaux. Et j'en profite pour prendre des questions qui sont arrivées indirectement sur les personnes qui nous écoutent derrière leurs écrans. Une personne demande quels sont les risques pour la production agricole de la diminution de la production de gaz naturel.
Eh bien, le risque, c'est la diminution des engrais azotés. Aujourd'hui, je vous l'ai dit, l'augmentation très très forte des rendements céréaliers qui sont nécessaires pour toutes les bêtes qui sont nourries autrement que essentiellement avec des pâturages, c'est le résultat de la mécanisation et de la fabrication des engrais azotés et des phytosanitaires et des phosphates. Avec la baisse de la disponibilité en gaz, on aura, alors pas tout de suite, parce que du gaz, si on se fiche du changement climatique, il y en a encore pour quelques décennies, il y en a encore pour 20 ou 30 ans en quantité croissante, 20 ans on va dire, 15 ans, 20 ans. Et puis après ça baisse. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Alors je ne sais pas, on peut préserver les engrais longtemps parce qu'on diminue le chauffage au gaz. Le gaz, il a plusieurs types d'usages. Il sert à la production électrique. Dans la production électrique, malheureusement, il a plutôt tendance à augmenter parce que la ruée vers l'éolien et le solaire demande des sources complémentaires pour garantir l'approvisionnement, et cette source complémentaire, c'est le gaz. Donc vous avez, en France, il se trouve que l'installation de panneaux photovoltaïques et d'éoliennes était destinée dans la loi de programmation de l'énergie que Hollande a fait voter à remplacer du nucléaire et pas à remplacer des combustibles fossiles. Donc ça, c'est neutre en ce qui concerne les émissions de CO2, puisque le nucléaire ne fait pas de CO2, il peut avoir plein d'inconvénients, mais pas celui-là. Et l'éolien et le solaire, directement, ne font pas de CO2 non plus. Donc vouloir remplacer du nucléaire par de l'éolien et du solaire, c'est raisonnablement neutre. Par contre, dans les pays qui avaient du charbon et du gaz, si vous remplacez le charbon et le gaz par de l'éolien et du solaire, ça fait baisser les émissions. C'est comme ça qu'un certain nombre de pays qui ne veulent pas de nucléaire font baisser leurs émissions. Mais, sauf à décider que ce genre de conférence ne se tient pas la nuit quand il n'y a pas de vent, ou que le train... l'annonce de la conférence, c'est sous réserve qu'il y ait du vent. Bon, très bien. Si vous ne voulez pas de ce genre d'organisation, et on ne veut plus aujourd'hui de ce genre d'organisation, je vous rappelle qu'il y a quelques siècles, la farine était moulue quand il y avait du vent. Quand il n'y avait pas de vent, il n'y avait pas de farine. Alors, heureusement, la farine se stocke, bon. Même s'il y a des charançons. Alors que l'électricité ne se stocke pas. C'est son principal problème. Donc, si on veut conserver une société organisée en fonction des horaires, qui est la société dans laquelle on vit aujourd'hui, vos gamins vont à l'école, qu'il y ait du vent ou pas de vent. Vous allez au travail, qu'il y ait du vent ou pas de vent. Le train part à l'heure, enfin normalement, qu'il y ait du vent ou pas de vent. Votre voiture part, qu'il y ait du vent ou pas de vent. Donc, en gros, nous vivons dans une société dans laquelle tout est organisé en fonction des horaires. Ça demande un système qui soit totalement prévisible. Et donc, dans un système totalement prévisible, vous ne pouvez pas avoir une fourniture qui soit imprévisible et non garantie. Donc, tous les systèmes électriques dans lesquels on voit se développer fortement des modes qui ne sont pas garantis, donc l'éolien et le solaire, voient également se développer du gaz, parce que c'est ce qu'il y a de moins cher à construire. Donc, tout ça pour en revenir à la question qui est 40% du gaz mondial aujourd'hui est utilisé pour faire de l'électricité. La fraction qui est utilisée pour faire des engrais est beaucoup plus faible. Donc, la bonne question, c'est combien de temps est-ce qu'il y aura du gaz pour faire des engrais dans un monde dans lequel on augmente le gaz dans l'électricité? Voilà une des questions. Je n'ai pas la réponse. Mais clairement, aujourd'hui, la chimie des engrais dépend. C'est la raison pour laquelle je fais partie des gens qui pensent que l'hydrogène, si on commence à en faire, par électrolyse avec de l'électricité pas carbonée, dans les deux usages prioritaire qu'il faut avoir de cet hydrogène, il n'y a sûrement pas de voiture et sûrement pas d'avion. Il y a la fabrication d'engrais et la fabrication d'acier. L'acier aujourd'hui se fabrique avec du charbon, un charbon spécial qui s'appelle du coke. Ça émet plein de CO2. La fabrication d'acier sans émettre de CO2 peut se faire avec de l'hydrogène. Et la fabrication d'engrais sans CO2 peut également se faire avec de l'hydrogène qu'on aurait obtenu par électrolyse avec de l'électricité elle-même décarbonée. Donc, et ça, c'est beaucoup plus prioritaire que de pouvoir aller aux Seychelles en avion. Donc, le premier hydrogène qu'on produit devrait aller dans ces deux applications-là. Et déjà, quand on voit la quantité d'électricité qu'il faut pour faire ces deux trucs-là, déjà, si on fait ça, c'est bien.
Vous êtes partout présenté comme étant très pro-nucléaire. Et vous venez simplement, il y a quelques minutes, de prononcer le mot de toute la soirée. Est-ce que vous pouvez en dire un peu plus? Parce qu'on est un peu à des échéances qui sont importantes et des défis. Merci.
Le nucléaire, il n'est pas un déterminant du cadre. Il est un élément de discussion dans qu'est-ce qu'on fait à partir de maintenant. C'est pour ça qu'en général, quand je fais une intervention, j'en parle pas beaucoup dans le cadre de l'intervention parce que ça pose pas le décor. Ce qui pose le décor, c'est la façon dont les combustibles fossiles, qui représentent 80% de l'approvisionnement énergétique mondial, ont organisé la société mondiale, et en particulier le pétrole, qui est l'énergie reine du XXe siècle. Le pétrole a fait le XXe siècle. S'il n'y avait pas eu de pétrole, il n'y aurait pas eu le XXe siècle. Parce que c'est notamment lui qui a fait le système de transport, qui est la vascularisation de l'économie mondiale. Donc le nucléaire, j'en parle jamais dans la partie liminaire des interventions. Ça devient un sujet de discussion dans qu'est-ce qu'on fait à partir de maintenant. C'est pas nécessairement le choix des journalistes qui me font l'honneur de parler de moi, qui pensent que j'ai que ça présent à la cervelle. Sauf à ce que j'ai été un très gros hypocrite dans la première partie de cette intervention. Vous voyez qu'il y a quelques autres petits trucs qui me trottent dans la tête. Alors, une fois que j'ai dit ça, qu'est-ce que je pense du nucléaire ? Je pense que, pour reprendre une expression que j'ai déjà utilisée, il s'agit d'un parachute ventral. Un parachute ventral, c'est un parachute qui est moins bien que le parachute dorsal. Il est moins gros, moins efficace, etc. Puis des, voilà. Et vous vous en servez quand vous êtes déjà pas très bien, c'est-à-dire que le parachute dorsal a décidé de vous jouer un sale tour, mais ça vous évite de vous écraser au sol. Et bien, le nucléaire, c'est exactement pareil. C'est un truc, c'est moins confortable à utiliser que du pétrole, du gaz ou du charbon. C'est plus compliqué, c'est plus sophistiqué, etc. Ça demande des compétences plus pointues. Voilà. Mais c'est un truc qui présente de l'intérêt à partir du moment où on a décidé que les combustibles fossiles, on voulait plus en entendre parler. Hein. C'est bien dans ce cadre-là que je me situe. Alors, quels sont ses avantages et ses inconvénients ? Pour essayer d'être un peu rapide, son principal avantage, c'est sa compacité. Vous avez... l'énergie nucléaire s'exploite en cassant en deux un noyau d'un métal qui s'appelle l'uranium. Donc, ce n'est pas une énergie fossile, c'est une énergie qui dépend d'un métal disponible en quantité limitée, mais ce métal ne résulte pas de la vie ancienne. Hein. Donc, de temps en temps, il y a des gens qui disent que le nucléaire, c'est une énergie... Non, ce n'est pas fossile, ce n'est pas un truc qui résulte de la vie ancienne. Par contre, ça utilise un métal et tous les métaux sont disponibles en quantité limitée. L'uranium comme les autres. Et cette réaction nucléaire consiste à faire une indigestion à un noyau d'uranium en lui envoyant un neutron dedans. Un noyau d'uranium absorbe le neutron et pff, il se casse en deux, comme le type qui a trop mangé dans la vie de Brian. Là, je ne sais pas si vous avez vu, un type qui a, avec toutes les tripes qui lui sortent au restaurant. Bah, c'est pareil, le noyau d'uranium de 135, il lui arrive la même chose, il mange le neutron, il a le bic qui explose, voilà, il se casse en deux. Et les deux morceaux dans lesquels ils se cassent s'appellent des produits de fission, et c'est ça qui vont donner les déchets nucléaires les plus emmerdants. Et puis, il y a également des neutrons qui se libèrent, qui vont être mangés par d'autres noyaux d'uranium, c'est comme ça que la réaction en chaîne se fait, et puis ça fait plein d'énergie. Dans la fission d'un gramme d'uranium, vous avez autant d'énergie que dans la combustion d'une tonne de pétrole. Un gramme d'uranium, une tonne de pétrole. Donc c'est une énergie extrêmement compacte, c'est ça son intérêt principal. Donc vous pouvez avoir de très grandes quantités d'énergie avec des tout petits volumes et des toutes petites quantités de matière. Alors ça, ça a deux avantages principaux derrière, et par ailleurs ça ne fait pas de CO2, puisque casser un noyau en deux, ce n'est pas oxyder du carbone, c'est pas pareil. Hein. Donc ça, ça veut dire que derrière, vous allez pouvoir avoir des centrales électriques qui globalement prennent peu de place pour produire beaucoup d'électricité, et vous allez effectivement avoir des cochonneries derrière qui s'appellent les déchets nucléaires, mais comme vous utilisez très peu de matière en entrée, des déchets nucléaires, vous n'en avez pas beaucoup. En quantité. Hein. Vous n'avez pas beaucoup en quantité. Aujourd'hui, vous avez la totalité des déchets de haute activité et longue durée de vie, donc les emmerdés, très emmerdants, hein, ceux qu'on veut mettre dans le sous-sol à Bure, là, qui ont été générés par 40 ans d'exploitation du parc français, ils tiennent dans un gymnase. Voilà, donc ça vous donne une idée. Donc c'est effectivement des saloperies, mais il n'y en a pas beaucoup. Ça, je peux l'éteindre, du reste, plus besoin. Les inconvénients du nucléaire sont... Ça demande des technologies, enfin des compétences pointues. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas passer demain matin de charpentier à constructeur de centrales nucléaires, c'est compliqué. La deuxième chose, c'est que ça demande, c'est très capitalistique, ça demande de très gros investissements au départ, et comme toutes les choses très capitalistiques, les agriculteurs ici le savent à leur modeste échelle, derrière, il faut que vous ayez un horizon de temps important devant vous pour être sûr que les investissements que vous allez faire, vous allez avoir un cadre stable pour pouvoir les rentabiliser. Hein. Donc le nucléaire demande des horizons de temps qui sont longs, pour des raisons économiques. Le troisième inconvénient que ça a, c'est que ça ne fait que de l'électricité. Donc c'est un des inconvénients. Donc ça veut dire qu'il faut pouvoir derrière utiliser de l'électricité à la place du pétrole. C'est pas toujours simple. Une voiture, il faut électrifier les voitures. Est-ce qu'il y aura assez de métaux pour faire des batteries, etc. Bon, les inconvénients que ça n'a pas, même si vous allez sauter en l'air, c'est que c'est monstrueusement plus dangereux que le reste. Ça n'est pas monstrueusement plus dangereux que le reste. Vous avez une instance onusienne qui existe depuis 1955, qui s'appelle le Comité scientifique des Nations Unies pour les effets des rayonnements ionisants. Donc en gros, c'est la même chose que le GIEC, mais ça s'occupe des études médicales qui disent ce qui se passe quand les gens sont soumis à des rayonnements ionisants, qui existe depuis 1955, le GIEC depuis 88, qui a fait plein de publications et notamment un retour d'expérience sur Fukushima et Tchernobyl. Tchernobyl est pas du tout l'accident industriel le pire de tous les temps. C'est très très largement enfoncé par Bhopal. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de l'accident de Bhopal, qui est un accident d'usine chimique qui a fait de l'ordre de 5000 morts et des blessés avec des séquelles à vie par dizaines de milliers. Tchernobyl a fait 50 morts instantanées, si je fais les choses très très rustiques, et 6000 cas de cancer à la thyroïde qui feront quelques centaines de morts prématurées. Voilà, donc c'est un drame. Pas du tout en train de dire que c'est une plaisanterie. Mais si vous remettez ça en perspective d'autres accidents industriels, si on dit qu'on arrête le nucléaire à cause de Tchernobyl, alors on arrête tout de suite la chimie, on arrête tout de suite les barrages, on arrête tout de suite les automobiles qui font 1 million de morts par an dans le monde tous les ans, on arrête tout de suite le tabac, c'est ce qu'on devrait arrêter tout de suite, et on arrête même tout de suite les piscines qui font 400 morts par an en France. Hein, 400 morts par an les piscines. J'espère qu'il n'y a personne dans la salle qui a perdu un jeune enfant noyé dans une piscine. Moi, ça a failli m'arriver, donc ça n'arrive pas qu'aux autres. Donc, c'est quand on remet en perspective le nucléaire, il ne faut pas y renoncer pour des raisons de dangerosité. Par contre, comme c'est un engin qui est très lourd et très inerte, il ne faut pas croire qu'il suffit d'en faire pour être débarrassé de tous les emmerdements que j'ai évoqués. Il n'y a rien de plus faux que ça. Hein. Voilà. Donc de ne pas en faire, c'est se priver d'une marge de manœuvre utile. En faire, ça fait 5 ou 10% du chemin, ce qui est très important parce que le chemin est très raide, ça n'évitera pas la sobriété, etc. Pour finir là-dessus, si vous avez suivi la primaire des écologistes, moi je l'ai regardé, j'ai regardé avec beaucoup d'intérêt le premier débat où il y avait les quatre là. Et il y avait une des candidates qui a dit, celle qui par ailleurs était ouvertement partisane de la décroissance, qui a dit « je ne fermerai pas prématurément une centrale en France ». Voilà, je pense que ça résume assez bien le fait qu'on peut très bien être conscient des limites et se dire « il va vraiment falloir transpirer ». Et dans cette transpiration, le nucléaire se range plutôt des trucs pertinents plutôt que des trucs dont il faut se débarrasser en plus des efforts qu'on doit faire sur le reste. Voilà.
Vous avez à deux reprises parlé dit un gros mot, la décroissance.
J'ai cru que vous alliez dire vache.
Non.
Pas vache.
Comme vous l'avez souligné, ça a été porté par Delphine Bateau pendant la primaire des écologistes. Vous arrivez président de la République, quelles sont les mesures que vous prenez pour mettre en place cette décroissance?
Alors, je ne la mets pas en place parce que je pense qu'elle est invendable en tant que telle. Je pense que Delphine Bateau a tort d'utiliser ce mot. Elle a raison de penser que c'est dans ce cadre physique-là qu'on va devoir raisonner. Et je pense qu'elle a tort d'utiliser le mot. Alors, pourquoi je pense qu'elle a tort d'utiliser le mot? Parce que vous avez eu une telle inertie dans le sens inverse. On a tellement longtemps assimilé croissance à progrès que je pense que le temps qu'elle explique que c'est pas comme ça qu'il faut raisonner, son mandat est terminé. Au revoir, madame. Voilà. Donc je pense que c'est pas un mot qu'il faut utiliser parce que il est beaucoup trop connoté, beaucoup trop chargé. On peut l'utiliser dans des débats, mais je veux dire dans un programme présidentiel, je pense que il y a trop de malentendus autour de ça. Je vous ai dit tout à l'heure, je suis pas allé jusqu'au bout de mon raisonnement, mais j'aurais dû. En ce qui concerne le pétrole, on est déjà en décroissance subie en Europe. Alors j'aurais pu y rajouter que c'est également vrai pour le gaz. Le gaz qui est une énergie régionale, parce qu'il se transporte beaucoup plus mal que le pétrole, parce qu'il est 1000 fois moins dense, parce qu'il est gazeux. La mer du Nord a passé son pic en 2005. Et enfin le charbon qui est une énergie aussi locale, régionale, parce que c'est un pondéreux solide et qu'un pondéreux solide ça ne se transporte pas bien. L'Europe a passé son pic dans les années 50. Donc en fait, en Europe, en ce qui concerne l'approvisionnement en charbon, on est en déclin depuis bien avant que le climat soit un sujet. L'approvisionnement en gaz est en déclin depuis le milieu des années 2000. Et l'approvisionnement en pétrole, à cause du pic conventionnel mondial, est aussi en déclin depuis le milieu des années 2000. Ce qui fait que l'approvisionnement énergétique européen est en déclin depuis 2006. Donc le parc de machines en Europe est en déclin depuis 2006, et donc la production industrielle est en déclin, et donc le PIB, il n'est pas en déclin, mais c'est parce qu'il y a des artefacts comptables dans tous les sens, et effectivement, un certain nombre d'entre vous commencent à trouver les fins de mois plus difficiles. Ceci va avec cela. Donc en fait, je pense que la décroissance, elle est déjà là. Donc c'est pour ça que moi, je ne prononcerai pas le mot. Au Shift Project, du reste, on est en train de réfléchir à un plan de décarbonation de l'économie française, qu'on appelle le plan de transformation de l'économie française, et on a décidé qu'on ne parlerait pas d'argent. Vous allez dire, comment ça, ils sont fous, à quoi ça sert ? Ouais, on va faire de l'économie sans parler d'argent. En fait, on va regarder ce qu'on doit faire, vous, moi, tout le monde, dans un monde qui doit se décarboner. C'est quoi les activités qu'on doit avoir ? C'est quoi les objectifs qu'on doit viser en termes physiques ? Nombre de logements qu'on doit transformer, la façon dont on se déplace, le nombre de vélos électriques qu'on doit construire, le nombre de voitures électriques qu'on doit construire, le nombre de camions électriques qu'on doit construire, le nombre de vaches qu'on doit élever, etc. Les métiers que les gens vont avoir besoin de faire, est-ce qu'on aura toujours besoin d'opérateurs chez Danone, ou est-ce que vous allez tous devoir embaucher des gens qui vont faire des yaourts chez vous ? Enfin voilà, qu'est-ce qu'on a besoin de faire ? Et c'est seulement derrière qu'on va se poser la question de ça veut dire quoi en termes économiques ? Hein, c'est dans ce sens-là qu'on a envie de raisonner. Mais donc, la décroissance, elle est déjà là. Donc, pour moi, elle n'est pas à vendre. C'est une donnée du problème. Ce qui est à vendre, c'est les projets qui sont cohérents avec ça. Donc, il faut c'est ça la difficulté de l'affaire. C'est qu'il faut arriver à trouver la campagne marketing pour quelque chose qui embarque la décroissance sans dire que c'est un objectif en tant que tel, parce que ce n'est pas vraiment un objectif en tant que tel. Voilà, c'est ça qui va être difficile. Alors, deuxième truc qui va être difficile, si j'en reviens à des éléments strictement économiques, c'est que le PIB, c'est la base fiscale. Hein. L'essentiel des prélèvements obligatoires sont assis sur des composantes du PIB. Les charges sociales sur les salaires, c'est une composante du PIB. Enfin, les salaires, c'est une composante du PIB, puisque c'est les revenus. L'impôt sur les sociétés, c'est la TVA, tout ça, c'est des impôts qui sont assis sur des morceaux du PIB. Les seuls impôts qui ne sont pas assis sur des composantes du PIB, c'est les impôts sur les stocks. Donc les impôts sur les télés, les impôts sur le foncier, etc. Et des impôts comme ça, on en a très peu. Donc l'une des raisons pour lesquelles le monde politique est tétanisé par cette idée de décroissance, c'est que ça veut immédiatement dire problème budgétaire. Immédiatement. Voilà. Donc on aura beaucoup de mal à la vendre en tant que tel. Voilà. Il faut se creuser la cervelle pour savoir comment est-ce qu'on arrive à vendre quelque chose qui embarque de la sobriété et qui fait qu'on a le regard qui se fixe ailleurs et pas sur cet élément-là. Dernier parallèle que je peux reprendre, que je prends souvent, c'est si toute votre vie vous vous êtes intéressé à la vitesse à laquelle vous courez et que vous avez couru de plus en plus vite, ça devient très très pénible de continuer à vous intéresser à la vitesse à laquelle vous courez quand vous courez de moins en moins vite. Et vous n'aimez pas ça en général. Voilà. Donc faut essayer de trouver autre chose comme point de fixation de notre attention. Alors, tout ça, ça a l'air d'être de la belle théorie, mais quand même, c'est ça le cahier des charges de la... Je crois vraiment, hein, le cahier des charges de la réflexion.
Allez, je vais reprendre une question qui nous arrive sur les réseaux sociaux. De plus en plus de familles cherchent l'autonomie alimentaire sur leur terrain. Est-ce un rêve de bobo ou une possible contribution significative à l'échelle du pays ?
Dès qu'on est en ville, c'est un rêve de bobo. Pour les gens qui habitent dans Rodez même, je pense que c'est pas sur leur balcon qu'ils vont, même s'ils sont véganes, cultiver tout ce qui leur est nécessaire pour manger toute l'année, patates, etc. Bon, bref. Ce qui a du sens, en fait, c'est de déspécialiser les régions agricoles. Aujourd'hui, un camion sur trois en France transporte quelque chose qui se mange. Je l'ai dit tout à l'heure, sans camion, les villes meurent de faim. Donc, déspécialiser les régions agricoles, ça veut dire que le kilométrage moyen parcouru par un aliment avant d'arriver dans une assiette, il baisse. Donc, ça veut dire qu'il faut remettre des vaches et des cochons dans la bosse, pas trop. Ça veut dire que... Donc quand je disais tout à l'heure dans la baisse du cheptel bovin, donc là je pense que vous allez pousser un ouf de soulagement, l'essentiel du cheptel qu'il faut faire diminuer, c'est celui qui est hors sol toute l'année. C'est celui-là qu'il faut faire diminuer en premier. Il faut laisser en premier le pâturage, sans compter que le pâturage est souvent une manière de valoriser des surfaces qu'on aurait du mal à valoriser autrement. Donc là, voilà. Mais il faut essayer effectivement de et dans l'ancien temps, toutes les villes avaient leur ceinture maraîchère. parce que les villes se sont souvent installées dans des zones de plaine fertile, hein, et beaucoup en tout cas. Et il y avait une ceinture maraîchère qui servait à nourrir la ville sur une partie de ce qu'elle mangeait, des patates jusqu'aux salades. Ça, il faudrait idéalement essayer d'en reconstituer, mais maintenant, à la place des ceintures maraîchères, il y a des pavillons, donc qu'est-ce qu'on en fait ? Enfin, voilà, bon. Donc on a un certain nombre de problèmes pas évidents du tout à résoudre, mais globalement, il faut aller dans le sens de la déspécialisation des régions agricoles et dans le sens du... Ouais. L'autonomie stricto sensu est un mot, moi, qui me fait très peur, parce qu'il y a un exemple dans le passé d'autonomie, ça s'appelle les sociétés tribales, et en général, c'est des gens qui passaient leur temps à se faire la guerre. Je vous rappelle que le grand projet européen, qui était porté par les pères fondateurs, hein, Monnet, Gasperi, Schumann, c'était un projet d'échange pour qu'on se connaisse et donc qu'on n'ait pas peur de l'autre et qu'on ne se tape pas dessus. Et c'est pour ça que l'Europe s'est retrouvée à faire une telle promotion du commerce jusqu'à la nausée aujourd'hui, hein, où on a fait sauter toutes les barrières, toutes les entraves au commerce, et aujourd'hui on pense plus que concurrence. En fait, on a confondu la fin et les moyens. La fin, c'était de vivre en paix, les moyens, c'était que les gens se connaissent et donc qu'ils fassent du commerce ensemble, et puis maintenant on a oublié que l'objectif, c'était de vivre en paix. Mais c'était exactement ça. Donc en fait, l'autonomie, c'est pas quelque chose d'essentiel. Ce qui est essentiel, c'est de dépendre de gens qui ont besoin de vous. Voilà. Tant que vous dépendez de gens qui ont besoin de vous, c'est pas nécessairement l'autonomie. Hein. Voilà, tous les gens qui sont pour l'autonomie, je ne sais pas s'ils sont pour l'autonomie sexuelle, par exemple. Non, pardon. Donc l'autonomie a ses limites. C'est un mot qui a été extrêmement galvaudé. Vous avez un domaine, par exemple, dans lequel les élus adorent, c'est l'autonomie énergétique aussi. Alors souvent, l'autonomie énergétique consiste à voir que sur la commune, la consommation annuelle d'électricité est égale à la production annuelle de 3 éoliennes, et on dit « Ah, ça y est, je suis autonome ». Rien à voir. Hein. Bon. L'électricité de l'éolienne n'est pas plus locale que celle du barrage de Serponçon. Hein, donc, bon. Mais c'est... Voilà, donc c'est pour dire l'autonomie, il faut s'en méfier, il faut avoir besoin des autres. Le mot important, c'est la résilience, pour moi, c'est-à-dire être dans un système qui a une forme de solidité. Hein, un système qui a une forme de solidité est un système toujours qui a une forme, qui a une composante collective, hein, et qui a une composante d'échange.
Moi, je voulais vous demander comment, donc pour en revenir un peu à la décroissance, comment vous pouvez en fait lancer cette décroissance quand il y a beaucoup d'entreprises qui ont beaucoup de pouvoir, en fait, à travers les lobbies notamment, qui ont tout intérêt à ce qu'on pollue, entre guillemets, donc qui font du business sur cette escalade, sur cette production de CO2 finalement. Donc ils n'ont pas tellement d'intérêt parce que eux qui disent en fait baisse de la consommation, baisse, ils vont perdre forcément énormément d'argent. Donc j'ai du mal à voir comment on pourrait diminuer alors que c'est eux qui derrière mettent la pression sur les politiques pour justement... qu'on reste dans ces modèles-là.
Les entreprises, je connais un peu, puisque c'est mon secteur de clientèle, hein, dans mon activité au quotidien, c'est de, notamment de faire du conseil. Les entreprises n'innovent que sous la contrainte, et elles ne changent que sous la contrainte. Donc il ne faut pas se raconter d'histoire, il n'y a que la contrainte qui fait bouger une entreprise. C'est quoi la contrainte ? C'est que ses clients changent d'exigence, c'est que des concurrents arrivent, c'est que ses actionnaires changent d'exigence, c'est que les pouvoirs publics changent d'exigence, ou c'est que les employés changent d'exigence. Donc pour faire évoluer une entreprise, il faut s'intéresser à ce qu'elle vend et à ses clients. Alors les clients, en général, c'est nous. Il faut s'intéresser à ses salariés. Il y a des fois où les salariés peuvent faire changer l'entreprise. Je vais vous donner des exemples après. On peut évidemment s'intéresser à la puissance publique. La puissance publique peut faire changer l'entreprise en l'obligeant à être soumise à des contraintes qu'elle n'avait pas avant. Et on peut s'intéresser à ses actionnaires, mais en général, c'est le plus difficile aujourd'hui, parce que les actionnaires, c'est toutes les personnes dans cette salle qui ont de l'assurance vie. Qui a de l'assurance vie dans cette salle ? Bon, les autres, c'est parce qu'ils savent que je vais les allumer, donc ils n'osent pas lever la main. Bon. Tous les gens ici qui ont de l'assurance vie possèdent, peu ou prou, des actions d'entreprise. Donc les actionnaires, c'est vous. C'est pas le marché, c'est vous. Vous, qu'est-ce que vous faites quand vous avez de l'assurance vie? Vous dites, putain, ça me rapporte 2,5, là, ça me rapporte 1,5, ça pouvait me rapporter 1,8, ça serait bien quand même. En tenant ce raisonnement, vous venez très exactement de tenir le raisonnement qui permet à l'entreprise de justifier qu'elle doit continuer à polluer pour gagner plus de pognon. C'est très exactement ça que vous faites. Donc à chaque fois que vous arbitrez vos placements personnels d'assurance vie en fonction du rendement, vous poussez les entreprises qui ont émis les actions et les obligations que vous détenez comme épargnants à se fiche de l'environnement. C'est désagréable d'entendre ça. Hein bon. Donc, mais c'est très exactement ça. Donc aller par les actionnaires, c'est compliqué. Alors, ça peut se faire quand même. Vous avez aujourd'hui, par exemple, des applications qui permettent de savoir quelle est l'empreinte carbone de votre épargne. On a un client à Carbone 4 qui fait ça. C'est une application qui s'appelle Lita, qui est éditée par une société qui s'appelle Rift, à moins que ce soit à l'inverse, je confonds toujours les deux, mais je crois que c'est ça. L'application s'appelle Rift et c'est Lita la société, je ne sais plus, enfin bon bref, c'est l'un des deux, je confonds toujours. Et ça vous dit, vous lui dites, ouais, j'ai des fonds communs de placement de ceci, machin, vous donnez les noms, et ça vous dit, voilà, l'empreinte carbone de votre épargne s'étend. Alors ça fait bouger quelques actionnaires, pas beaucoup, parce que l'essentiel se contrefout de l'empreinte carbone de leur épargne, ils regardent juste ce que ça rapporte. Faire bouger les salariés, c'est déjà un peu plus facile, notamment chez les jeunes. Aujourd'hui, j'ai de plus en plus fréquemment des témoignages de chefs d'entreprise qui me disent « L'une des raisons pour lesquelles je commence à être obligé de m'intéresser vraiment sérieusement au problème, c'est que je reçois en entretien de recrutement, enfin moi, pas moi, mais mes équipes reçoivent en entretien de recrutement, des gens qui me questionnent là-dessus. Et plus les gens ont le choix, et plus évidemment le fait de tenir compte de leur opinion est important, parce que si les gens ont le choix et que vous ne faites pas ce qui leur plaît, ils iront voir ailleurs. Donc pour les compétences un peu recherchées, mais pas nécessairement des cadres, par exemple des ouvriers dans l'industrie, le fait que les gens soient sensibles à ce genre de sujet et disent « moi ça compte pour moi », c'est quelque chose qui peut faire bouger une entreprise. Après, ce qui fait évidemment bouger une entreprise, c'est ses clients. J'ai envie de dire, la première responsabilité de quelqu'un qui pense que ce problème est important, c'est sa responsabilité de consommateur. On ne peut pas tout faire comme consommateur. Par exemple, comme consommateur, vous ne changez pas la composition d'un parc électrique dans un pays. Vous pouvez évidemment arbitrer vos propres choix en fonction du parc électrique du pays, ça c'est clair, mais par contre, vous ne changez pas à vous tout seul, comme consommateur, le parc électrique d'un pays. Donc ça, c'est un acte qui... Vous pouvez par contre changer votre chaudière, ou vous pouvez décider de modifier votre régime alimentaire. Donc il y a des trucs que vous pouvez faire et puis des trucs que vous ne pouvez pas faire, mais vous avez quand même un rôle important. Comme disait Coluche, il suffit que ça ne s'achète pas pour que ça ne se vende pas. La dernière chose qui fait bouger une entreprise, c'est la puissance publique. Et ça, c'est notre rôle de citoyen. Mais il faut bien voir que notre rôle de citoyen, on l'arbitre avec notre rôle de salarié. C'est-à-dire que quand on veut faire des misères à une entreprise, on fait par ricochet parfois des misères à ses salariés. Et donc des fois, ça nous retient, à juste titre, d'avoir envie de faire des misères à une entreprise parce qu'on n'a pas envie de faire des misères aux salariés. Ça dépend lesquels, mais généralement non. En tout cas, pas par principe. Donc si on achète moins de voitures et qu'on monte moins de pneus, les salariés de l'usine Goodyear, ils ont moins de boulot et on dit « Ah, c'est pas sympa pour eux ». Donc voilà. Donc la pression de la puissance publique est aussi quelque chose qui fait bouger les entreprises. Je peux vous dire par exemple dans le domaine de la construction, il y a une réglementation qui vient de changer et qui oblige maintenant à tenir compte de l'empreinte carbone des produits de construction et à limiter cette dernière. C'est en train de modifier de manière rapide les techniques qui sont utilisées par les constructeurs. Ça n'empêche pas qu'ils continuent à construire et à artificialiser les terres, si c'est ça qui nous importe, mais par contre, ça modifie quand même la manière dont ils s'y prennent. Donc voilà en gros les marges de manœuvre. Donc ce n'est pas exact de dire qu'on ne peut rien faire en ce qui concerne les entreprises. On ne peut jamais rien faire tout seul et tout de suite. Ça, c'est très très clair. Collectivement ou dans certains cadres et dans la durée, c'est pas vrai.
Bonsoir.
Bonsoir. Ah, peu importe. Hein. Bon, déjà, je suis un petit peu. Je vous remercie beaucoup de vos interventions. Ça fait un moment que vous m'avez permis d'être un peu moins bête. Mais ça m'amène à une question, justement. La question. Je ne parle pas bien devant, pardon. Donc, j'espère que vous avez entendu mon remerciement. le partage de votre intelligence est un plaisir, qu'il soit ou pas, vous êtes polytechnicien en lien avec le nucléaire, c'est un bonheur de vous entendre vous exprimer avec humour et clarté et adaptabilité justement. Et ça me fait poser une question quand même qui me taraude, c'est, il y a une pertinence dans la compréhension de la complexité énergétique que vous détenez, que vous avez améliorée au fur et à mesure des années, je vois vos graphiques progresser dans le temps et dans leur pertinence. Et dans la salle, combien de personnes sont compétentes dans une toute petite part de compréhension de la manière d'utiliser l'énergie, de la gérer? Vous parlez de décroissance, mais on a tous l'habitude du confort plutôt. Et typiquement, dans le confort, il y a une absurdité d'emploi de l'énergie. Au lieu de couper son radiateur pendant qu'on fait tourner sa plaque électrique, par exemple, qui permettrait de suffire avec 3 kWh, ben, on prend 6 kg à EDF et on met les deux en même temps. Alors que ça aurait pu fonctionner. Est-ce que vous ne croyez pas que... Alors, vous avez un grand savoir, puisque vous êtes polytechnicien, cerveau qui a pu briller, qui a pu avancer. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas que... Alors, vous le faites, mais pensez-vous qu'il y aurait une solution dans l'idée de rendre les gens plus intelligents dans leur compréhension de l'énergie? Est-ce que ma question a un sens?
Oui, oui, je comprends très bien. En fait, on peut être polytechnicien et ne pas savoir faire cuire un œuf au plat. J'avais un copain qui était dans ce cas-là. Et par ailleurs, n'avoir strictement, je ne dis pas ça pour moi parce que je ne sais absolument pas où je me situe, mais et n'avoir absolument aucune notion humaine, j'ai envie de dire. Enfin, ne rien comprendre au comportement de ses semblables. Hein. Vous savez, pour rentrer à l'X, on nous demande de résoudre des équations, pas de comprendre comment fonctionnent les hommes, donc, enfin l'humanité. Là, la question que vous posez, elle relève beaucoup plus des sujets du comportement, de la sociologie, de comment on fait pour donner finalement envie aux gens de faire autrement que ce qui... quelque part, on n'est pas loin des gens qui doivent se désaccoutumer d'une drogue, on est un peu dans ce registre-là. Et donc, on est dans des registres qui ne sont pas du tout ceux des sciences exactes. On est dans le registre de l'affectif, de l'émotion, de l'envie, etc. C'est évident qu'on ne peut pas vendre la privation. On n'a jamais vendu la privation. Et du reste, quand on a dit aux poilus « allez donc vous battre », on ne leur a pas vendu « vous allez être dans des tranchées boueuses et qu'est-ce que ça va être merdique ». On leur a dit « vous allez sauver l'honneur de la France et qu'est-ce que ça va être bien ». Donc, alors que la réalité, c'est qu'ils étaient dans des tranchées boueuses et que c'était quand même assez merdique. Bon. Donc là c'est exactement pareil. Ça renvoie à la question qui a été posée tout à l'heure. Il faut essayer de voir où est-ce qu'on peut avoir du désir immédiat, pardonnez-moi cette expression, dans le fait de changer notre rapport à la matérialité. Alors, je vais prendre un exemple à la con, il est vraiment à la con, mais à la suite, il se trouve que j'habite en banlieue parisienne, et moi je me déplace par les transports en commun, mais j'aurais pu me déplacer en bagnole. Une fois par semaine maintenant, j'ai décidé de me déplacer en vélo. Alors du haut de mon grand âge, ça me fait faire 60 bornes dans la journée, ce qui n'est pas un exploit, mais ce qui à ma modeste échelle me fait du bien quand même, et j'ai décidé de le faire parce que ça me fait du bien et que ça me détend. Donc j'ai pas vu le moins de pas être en voiture, j'ai vu le plus que ça me permet de faire un peu d'exercice et que je trouve ça agréable. Le plus est instantané, et en fait toute la difficulté dans cette affaire de climat et d'énergie, c'est d'essayer d'arriver à trouver des plus de court terme. Parce que le plus de long terme est un truc qui ne fait avancer personne. Il faut qu'il y ait la motivation, elle soit là, à court terme. Donc, tout à l'heure, vous avez cité l'exemple de l'abonnement. Il faut qu'il y ait un plus associé à ça, à court terme, nécessairement. Sinon, on n'y arrive pas. Alors, le plus peut, et de temps en temps, il est, le fait de se retrouver dans la norme sociale. Ça, c'est quelque chose qui... J'ai un ami mathématicien qui, par ailleurs, est un des fondateurs de Dauphine, qui avait dit un jour « Jamais on arrivera à résoudre le problème du changement climatique en faisant un problème économique. Jamais. Il faut que ça devienne un problème éthique. » Dit autrement, il faut que ça... Il faut... Oui. Si vous avez le nez qui vous démange à un repas et vous avez envie, une furieuse envie de vous forager le narine pour en sortir des crottes de nez, vous n'allez pas le faire. Parce qu'en fait, ça vous ferait sortir de la norme sociale si vous étiez vraiment avec des bons copains qui font pareil. Mais sinon, vous n'allez pas le faire. parce que ça vous fait sortir de la norme sociale, et rester dans la norme sociale est un truc important. Donc ça, ça peut aussi être quelque chose qui un jour va jouer. Hein. Voilà, mais il faut qu'il y ait un plus de court terme dans toute action qui va aller dans le bon sens sur le long terme, sinon effectivement ça ne marchera pas. Et donc ça, ce n'est pas du tout du ressort des polytechniciens, c'est du ressort des gens qui savent sonder les âmes et comprendre comment est-ce que des gens ont envie de faire des choses qui sont différentes de ce qu'ils faisaient avant.
Alors, juste, on est désolé, mais c'est 23h30, on a répondu déjà à pas mal de questions, on en a plein qui arrivent par Internet aussi, donc on va être obligé d'arrêter. Je voulais encore une fois remercier Jean-Marc Jancovici d'être venu ici à Rodez. Vous remerciez vous aussi pour,
je repars avec ou pas ?
Pour votre présence.
Non.
Vous pouvez, c'est nos mascottes.
Je vais faire fureur dans le train si vous parlez.
Ouais, dans le train, ça risque de faire bizarre par contre. Ouais. Donc juste pour vous remercier vous de votre présence aussi, on va, dans la mesure des règles sanitaires, autant que possible, relancer les cycles de conférences qui nous sont chers. C'est-à-dire qu'on en organise environ 2 à 3 par an sur des thèmes variés, mais c'est toujours intéressant de discuter sur... sur ce genre de sujet. Et un dernier point aussi, on a lancé il y a tout juste un an une chaîne de podcast qui s'appelle Dans leurs bottes, qui, j'en parlais à M. Jancovici avant de démarrer la conférence, dont le but en fait est de présenter l'agriculture et nous agriculteurs sous un jour un peu différent, c'est-à-dire c'est un genre d'interview d'échange pendant une heure. On a dû tourner une trentaine d'épisodes à peu près depuis le début. Et donc en fait c'est pour montrer la réalité de l'agriculture. Les jeunes agriculteurs, on est avant tout des jeunes comme les autres, et voilà, ça parle de nous. Donc je vous invite à aller faire un tour, c'est disponible sur toutes les plateformes de podcast classiques. Voilà, merci encore à tous, merci monsieur Jancovici, et
merci à vous.
Ouais, on est désolé, d'habitude on paye un coup à la fin, mais bien sûr vous comprenez que la situation ne le permet pas.